Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Becketch, dirigé en cette première partie par Serge de Becketch, assisté de Victoria, document d'archives du 27 février 2002, rediffusé dimanche 27 février 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission est réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va-t-il ?
Bof. Puisqu'on reconquiert, comment dit-on ? Puisqu'on reconquiert, peut-être.
Reconquérit.
Reconquérissons.
Reconquérissons tous en cœur. Bruno Maigret, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comme les lecteurs attentifs et perspicaces l'auront deviné, ce soir, je reçois Bruno Maigret.
Dans ce sens-là, c'est plus facile pour qu'ils comprennent.
Oui, quand même. comment s'appelle ce garçon ? Ah oui, Henri de Fersin, comment allez-vous ?
Très bien, Serge.
J'ai eu un petit creux.
Il faut faire attention, hein, ça prend un bonheur.
Bah oui. Bon, la situation est ce qu'on sait, quoi. Hein, on va pas épiloguer longtemps. Je conseille quand même la lecture du Libre Journal, qui est
un excellent décadère.
Matin, quel décadère,
n'est-ce pas ? J'en appelle à toutes les personnes présentes.
Absolument.
Merci. Je vois qu'on s'est compris. D'autant qu'il y a un excellent papier. Alors, autour de Radio Courtoisie. Je peux pas en dire plus parce que c'est délicat, mais
il faut piquer la curiosité du client.
Oui, ça, c'est pas du tout une affaire de personne, c'est une affaire de technique. Et ceux qui le liront vont comprendre. Ceux qui le liront pas forcément, ils comprendront pas. Ça, c'est bien.
Tant pis pour eux.
Voilà.
Donc c'est l'occasion d'acheter le Libre Journal et de s'y abonner.
Quelle adresse ?
4 place Franz Liszt, 75 010, Paris.
Et le prix ?
Alors, c'était 700 francs, je ne connais pas la traduction en monnaie d'occupation.
110 euros ou 100 euros, et le numéro à la pièce, c'est 5 euros, avec un K, comme pyjama à bretelles. Voilà. Bruno Maigret, je vous ai invité parce que je vais inviter tous les candidats à l'élection présidentielle.
Ah bon, je ne savais pas.
Ben si.
Je suis le combienième ?
Pour l'instant, le deuxième.
Ah, d'accord.
Mais j'ai l'intention d'inviter les autres, tous les autres d'ailleurs.
Mais le jour où monsieur U viendra, vous me direz, je ne viendrai pas. Hein.
Mais non, mais pourquoi ? Attendez.
Vraiment tous, Serge ?
Tous, absolument tous. Et y compris monsieur Satan Donné Balabala.
Ah non, alors là,
même
celui-là,
même celui de l'heure.
Sera-t-il Deleur. Candidat ?
Mais oui.
Ah, mais il n'est pas candidat, lui. Qui, le gars qui fait le journal
monsieur
de Miguel ?
Monsieur qu'on voit sur les affiches, là, voilà, le journal de Miguel.
Ah non, il n'est pas candidat, lui, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pour faire du fric et tout. Entrez, monsieur Charousset, voilà. C'est monsieur Charousset qui va entrer. Parce qu'il vient nous parler tout à l'heure de... Tiens, Bruno Maigret, une question personnelle. Vous avez un fils.
Absolument, oui.
Il est âgé de quoi maintenant ?
8 ans.
Alors, voilà, asseyez-vous, monsieur Charousset, parce que je vais vous lancer un défi là, tout de suite. On va passer aux choses sérieuses, Bruno. Je suis désolé pour les auditeurs qui attendent.
Oui, c'est
mais non, non, mais...
Ça, c'est une chose sérieuse.
Moi-même, dans l'expectative de
monsieur
ce qui va m'arriver, là. Monsieur
Charousset représente une association, dirige une association qui s'appelle Aventure et Tradition, et qui organise des camps de vacances pour les enfants. Vous connaissez. Alors, monsieur Charousset, je vous avais promis de vous donner la parole en début d'émission, mais vous n'étiez pas là, donc j'ai commencé à parler avec Bruno Maigret.
Je me suis mal compris, parce que j'avais compris que je n'intervenais que vers...
Oh, mais, le micro.
Ne touchez pas le micro, parlez dedans.
Montez.
Voilà. Mais c'est votre
je me baisse, alors
voilà,
c'est
comme
ça.
Très
humblement, je vous demanderai pardon, comme
C'est fait spécialement, les micros sont bas, spécialement pour que les invités aient l'air un petit peu humbles.
Voilà, humilité. Hein.
Alors,
humilité
je vous donne 5 minutes pour convaincre.
Tout de suite ?
Ben oui, tout de suite, comme ça, ça va être fait.
Comme ça,
pour convaincre Bruno Maigret de la nécessité d'inscrire son fils au prochain camp d'aventure et tradition.
Ça, sans aucun doute, c'est une bonne formule. Et je suis bien placé pour le dire, puisque les jeunes gens qui passent chez nous sont vraiment ravis. Alors, Aventure et Tradition, Monsieur Maigret, je pense, connaît au moins deux noms. En tout cas, il faut préciser que nous sommes une association qui entraîne des jeunes gens de 8 à 18 ans,
voilà,
qui forme des jeunes gens de 8 à 18 ans. On les initie au sport de montagne.
Vous êtes tranquille pendant 10 ans, Bruno, après.
D'accord.
On les initie au sport de montagne, à savoir la randonnée, l'escalade et l'alpinisme. C'est, la formation est assurée financièrement totalement par Aventure et Tradition, dans l'esprit d'Aventure et Tradition, et puisque nous sommes de la tradition, dans l'esprit de la tradition, puisque nous allons même jusqu'à dire une messe traditionnelle sur nos camps, qu'elle soit dite sur le camp ou dans une église de proximité. Voilà, donc notre ambition, c'est de donner à ces jeunes gens une force de caractère, une résistance physique et une santé morale défiant toute concurrence.
Comment s'appelle votre garçon? J'essaye de retrouver.
Audouin, il s'appelle.
Audouin,
hein,
voilà. Audouin. Il est sportif.
Ici, mais oui, oui. Enfin, s'il n'est pas comme son père, il sera assez sportif, oui.
Vous n'êtes pas sportif?
Pas vraiment, hein.
Non.
Je pratique une autre forme de sport.
Vous êtes cavalier, non?
Oui, j'étais cavalier dans mon jeune âge, quand j'étais à l'armée.
C'est déjà une forme de
enfin, c'était
de sport,
surtout des
cavaliers.
C'était surtout des chevaux blindés que montais.
En tout état de cause, donc Audouin sera le bienvenu. Il faut savoir qu'on ne lui fera pas faire des choses qu'il n'est pas en capacité de faire, quelles que soient ses dispositions sportives. On suit la progression de l'enfant, c'est-à-dire on suit son évolution. S'il est sportif, bon, on lui fait faire des choses un peu plus difficiles. S'il est moins sportif, on attend que les choses viennent tranquillement. Et alors, évidemment, ça les change un peu de la télévision. Je le dis tout de suite, hein, que les forcenés de la télévision vont être très déçus. Et nous en avons eu comme ça, qui sont arrivés au camp.
Ils ne
savaient pas trop ce qui leur arrivait. Ah, oui. C'est quand même... Il n'y a pas de télé.
Ça se passe le week-end, ça se passe pendant les vacances.
Alors, ça se passe en général, nos camps se font tous pendant les vacances scolaires.
Alors, pendant combien de temps?
C'est 8 jours, 15 jours, 3 semaines, en fonction. Et là, nous avons l'ambition d'y inclure également, puisque c'est également un des sports de montagne, les sports d'hiver. Donc là, ce sera un élément qui est très attrayant également, parce que les enfants, évidemment, sont, pour l'instant, tant qu'ils ne connaissent pas les sports de montagne, sont plus attirés par le ski alpin que par le... Ça demande quand même une discipline, de faire quand même la montagne.
Sans compter qu'après les vacances, ça peut avoir des avantages parce que pendant qu'ils sont plâtrés, on est tranquille quand même.
C'est vrai que c'est un des avantages non négligeables pour la tranquillité des parents. Il faut toujours penser à la tranquillité des parents lorsqu'on s'occupe d'enfants. Voilà. Alors vous souhaitez, puisque j'enchaîne dessus, je vais vous donner toutes les informations concernant le déroulement. Je vais le temps de m'armer de mes lunettes.
Allez-y, armez-vous de vos lunettes, puis approchez-vous du micro quand vous aurez chaussé vos lunettes,
Je connais la sensibilité légendaire des micros de Radio Courtoisie. Si mes lunettes ne sont pas nouées, ça va aller tout seul.
J'espère que vous êtes plus adroit en varap qu'en dans des boutiquages de lunettes,
que là, apparemment, j'ai un problème.
Voilà, ça vient. Pourquoi vous torsifilez vos lunettes?
J'ai une mauvaise habitude, c'est de tortiller mes lunettes.
Oui, ça, à mon avis, c'est pas un bon plan du tout.
Elles ont choisi leur jour.
ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a un cordon pour mettre les lunettes autour du cou, mais il met les lunettes dans la poche avec le cordon, ligotant les lunettes. Non, vous n'arriverez pas à lire sans lunettes, ne me faites pas cet affront-là.
Si, bien sûr que si. Alors, le camp de Pâques, c'est celui qui nous intéresse. Donc, il se déroule du 14 avril au 21 avril.
C'est la bonne période, ça? 14 au 21 avril.
C'est bien, juste avant l'élection présidentielle. Oui, voilà.
C'est pas évident.
Et alors
le lieu, c'est Buis-les-Baronnies. Alors, Buis-les-Baronnies, c'est près de Vaison, la Romaine, et à proximité de Nyons.
Ah, il n'y a pas de neige là-bas?
A priori, il ne devait pas y avoir de neige, mais la neige, nous pouvons la rencontrer très facilement par la proximité des montagnes. Il faut aller un peu plus haut. Hein. Là, pour cette période-là, on s'installe un peu dans le confort, puisqu'on est en camping. Et il faut parler prix. Alors, le prix du stage est de 275 euros. c'est-à-dire environ 1804 francs. Vous voyez que je serais sûrement muni de mes lunettes avant la fin de l'émission.
C'est, une surtout fois de plus, c'est dommage qu'on n'ait pas la télé. Si vous voyez ce qui est en train de se passer.
Hein, plus un transport, plus le transport SNCF qui est estimé environ à 75 euros pour les enfants de 12 ans et plus, et à 38 euros pour les enfants de moins de 12 ans. C'est merveilleux.
Quand il a fini, les lunettes sont déboutiquées.
C'est une merveille. Je vous remercie infiniment.
Donc le prix total voyage compris.
Me voilà redevenu normal. Alors donc le prix du stage, donc je dis donc 275 euros. Le voyage en plus, hein, on dira pour simplifier, qui varie suivant l'âge des enfants de 492 francs à 250 francs.
Alors, on a les dates, on a le lieu, on a les prix.
On a les dates, on a le lieu, on a les prix. Alors il faut y ajouter les personnes à contacter. Voilà. Alors à Paris, c'est le téléphone fax, hein. C'est le 01 39 82 01 37. En province, le 05 46 74 54 39. La province étant notre bonne ville de Saintes. Équipement. Alors l'équipement pour équiper ses enfants, puisque on exige quand même qu'il y a une certaine rigueur qui règne sur le camp au niveau de la tenue, entre autres. Alors du point de vue équipement, on peut rappeler quand même la tenue. C'est une très belle tenue avec une chemise bleu ciel, un knickers bleu marine, une ceinture beige avec une boucle dorée, un pull marine ou commando bleu, des chaussures de randonnée avec des lacets rouges très important, et des chaussettes de randonnée couleur écrue avec un béret qui sera rouge ou vert suivant la catégorie dans laquelle on se classe. Voilà. Alors je vais en profiter puisque dans mon élan pour parler de notre assemblée générale, et ça s'adresse à nos fidèles clients, si j'ose dire. Ça se passera, l'assemblée générale se passe le 24 mars à 14h30 au café-restaurant L'Embuscade à Beson. C'est prédestiné tout
quel
ça.
Curieux, non, pour une assemblée générale d'association.
Bon, voilà. Alors, si vous permettez, est-ce que je peux également dire un petit mot du camp d'été? C'est pas pour tout de suite, mais...
Non, un mot, mais vous reviendrez.
Un mot très rapide. Il a lieu du 14 juillet au 28 juillet.
Bon, voilà. Et où, vous le savez?
Oui, je le sais, dans les Pyrénées. Bon. Entre Luz, Saint-Sauveur et Barèges, et près d'un petit village qui s'appelle Viella, et nous sommes à proximité du col du Tourmalet. Très bien. Ce qui nous a valu d'ailleurs l'année écoulée de voir passer
les
cours. Voilà, qui vous savez.
Le Tour
vous remercie infiniment.
Merci beaucoup. Alors,
c'est moi qui vous remercie.
Vous êtes convaincu?
Bah écoutez, c'est mon fils qu'il faut convaincre maintenant.
Hein. Ça, c'est votre travail maintenant.
Voilà, absolument.
Mais avant de convaincre votre fils, plutôt après avoir convaincu votre fils, il va falloir aussi de convaincre les Français de voter pour vous. Alors, la première question, parce que c'est la question que tout le monde se pose maintenant, que tout le monde vous pose sans arrêt, j'imagine, c'est la question des signatures. Est-ce que c'est réglé ce point-là ou pas encore?
Bah écoutez, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a deux catégories de candidats s'agissant des signatures. Il y a ceux qui donnent des chiffres et ceux qui disent la vérité. Alors moi je dis la vérité, donc je n'ai pas encore totalement les signatures, mais nous sommes maintenant extrêmement près du but, et il s'en faut de quelques petites dizaines, et par conséquent, au rythme où elles rentrent actuellement, je suis extrêmement confiant, nous aurons les signatures le moment venu. Ça a été un travail considérable, ce qui est tout à fait anormal, mais ce travail nous avons été, et nous sommes en mesure de le mener, donc nous serons au rendez-vous.
La deuxième question, qui est beaucoup plus importante à mon sens, parce que je crois que la première, la réponse effectivement est forcément positive. Quand on pense au nombre de signataires possibles, ça serait quand même, il faudrait vraiment que les adversaires déploient des trésors de stratégie, de tactique, de menaces, de coercition, de pression pour arriver à empêcher qu'un candidat naturel reçoive ses signatures. Et maintenant, la deuxième question, c'est celle du sens que vous donnez à votre candidature. Parce que je crois que ce n'est pas désobligeant de dire que vous ne concourez pas pour la victoire finale.
Bah, disons que je ne suis pas totalement certain d'être au deuxième tour encore.
Alors, voilà. Cette chose étant dite, il vaut mieux la dire que pas la dire d'ailleurs, parce que ça fait quand même plus sérieux de dire les choses clairement. À partir de ce moment-là, quel sens donnez-vous à une candidature comme la vôtre?
Bien, C'est vrai que la question est importante et c'est, on me la posera jamais cette question d'ailleurs, c'est très curieux. Le sens que je donne à ma candidature, c'est très simple, c'est une candidature de fondation. Je crois que la France est à un moment critique de son histoire. Je crois que tout peut basculer aujourd'hui et dans les années qui viennent, d'un côté ou de l'autre, dans le pire comme dans le meilleur. Et je pense que ce que nous incarnons, c'est la voie de l'espoir, la voie du redressement, la voie du sursaut, la voie du réveil, la voie du renouveau. Ça ne va pas basculer le 21 avril prochain. Je pense que ça peut se produire dans les quelques années qui viennent. Ça peut se produire dans les quelques années qui viennent, à condition qu'on soit prêt. Et cette élection présidentielle, elle est le tournant qui doit permettre à la droite nationale d'achever sa mutation et nous mettre en position, quand je dis nous, c'est le MNR, mais j'en fais pas une affaire d'appareil, nous mettre en position d'incarner demain ce renouveau et d'être en mesure d'œuvrer demain au renouveau de notre pays. Si je suis plus concret, il y a pour cette élection, à la droite de l'échiquier, Madame Boutin. Madame Boutin, qui est une femme estimable, si elle va jusqu'au bout, fera un coup, mais un coup sans lendemain. De l'autre côté, que ce soit Charles Pasqua ou Jean-Marie Le Pen, font leur dernière bataille électorale. Et au fond, je suis le seul, la candidature que j'incarne, est la seule qui s'inscrit dans la durée et qui s'inscrit dans la perspective d'une construction politique. Je le dis sans acrimonie, je le dis sans agressivité. Voter pour Le Pen ou pour Pasqua, ça ne sert à rien. Au lendemain du 21 avril, ils ne feront rien de leur voix. Les voix que je recevrai, moi, le 21 avril, elles constitueront un capital que nous ferons fructifier avec mes amis pour créer ce grand rassemblement. Car, au fond, le problème qui est le nôtre, quand je dis le nôtre, c'est nous autres Français de droite, c'est que notre courant de pensée représente aujourd'hui un potentiel tout à fait considérable, sans doute bien plus que les 20, 25, 30% auxquels on songe d'habitude. Mais cette droite a été balkanisée, divisée, culpabilisée, marginalisée. Et à cause de ça, elle n'a pas pu peser sur le destin de notre pays de façon dramatique. Et le projet qui est le bien avec mes amis du MNR, c'est d'être en mesure d'œuvrer à ce rassemblement et à cette déculpabilisation de ce que j'appelle, pour simple, la droite nationale et républicaine.
Alors, une des questions qui se pose souvent quand on évoque votre candidature, et quand on la met forcément en parallèle avec la candidature de Jean-Marie Le Pen, ouais. C'est celle de l'opportunité d'une double candidature de la droite nationale oui. En ce moment. Et je sais qu'on vous a posé la question, moi-même j'ai posé la question, et autour de moi, des gens se demandent s'il n'aurait pas été plus, je dirais, plus stratégiquement ou plus mieux calculé, je ne sais pas comment dire, mais plus stratégique peut-être, de différer votre candidature. Vous êtes un homme très jeune encore, en politique, enfin pour un candidat à la présidentielle, vous êtes très jeune. Et donc, s'il n'était pas plus astucieux ou plus stratégique de différer jusqu'à la prochaine élection et de dire cette fois-ci, écoutez, dans un esprit de réconciliation générale de la droite nationale, je ne me présenterai pas, j'attendrai pour ça. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent
C'est très simple. Jean-Marie Le Pen avait une chance aujourd'hui d'être élu président de la République, la question ne se poserait pas. C'est certainement le geste que j'aurais fait. C'est bien évident. Bien. Donc là, Premièrement, je vais compléter la réponse qui mérite davantage. S'il y avait eu un projet de réunification possible aujourd'hui, j'y étais disposé, mais rien de tel n'est venu, bien évidemment. Or, alors, si vous voulez, je crois qu'il faut donc voir les choses de façon différente. Pourquoi est-ce que je me présente? Pourquoi est-ce que le MNR soutient ma candidature? Ça n'est pas une affaire personnelle et c'est pas du tout dans une démarche d'antagonisme ou de division. C'est pour ne pas perdre 5 années. Car la première fois qu'on se présente à une élection présidentielle, sauf si on est Premier ministre sortant ou ministre important d'un gouvernement, La première fois qu'on se présente, on fait généralement un score modeste. Ça a été le cas de Le Pen lui-même, ça a été le cas de bien des candidats à l'élection présidentielle. Si je ne me présente pas cette fois-ci, ça veut dire que je me présente dans 5 ans, et c'est dans 5 ans que je ferai un score modeste. Je fais mon score modeste cette fois-ci, j'espère qu'il sera d'ailleurs pas si modeste que ça, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et donc, on gagne 5 ans. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a là, en fait, c'est une élection passage de témoin. Il y a un train qui s'arrête, il y a un train qui démarre. Et je pense que si on avait différé les choses, c'était 5 ans de perdu. Et ceux qui voient les choses sous l'angle de l'unité se trompent. Ils se trompent pas de rechercher l'unité, mais ils se trompent de rechercher l'unité de façon trop mécanique. L'unité, elle va se refaire au lendemain des élections présidentielles et des élections législatives, autour du mouvement qui incarnera la dynamique, qui incarnera l'avenir, au niveau de l'électorat d'abord, au niveau des militants, des cadres ensuite, dans un esprit d'ouverture et d'apaisement et de réconciliation. Mais encore une fois, si le MNR n'était pas présent, si je n'étais pas présent, on perdait 5 ans.
Dans la perspective des législatives, est-ce que vous pensez que votre candidature, cette fois-ci, est aussi une façon d'asseoir, en quelque sorte, le MNR, de l'officialiser, il est déjà officiel, je veux dire, mais de lui donner la stature d'un parti vraiment intervenant dans les affaires du pays, et pouvant présenter des candidats. Est-ce que vous présenterez des candidats partout?
Alors, on va présenter des candidats dans chacune des 577 circonscriptions législatives. Je puis vous dire qu'on a déjà investi à peu près 540 candidats. Donc, on est déjà pratiquement en ordre de bataille. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en quelque sorte, l'unité de la droite nationale, elle se fait par un passage de témoin. C'est le MNR qui va prendre le relais. Et avec cette élection présidentielle, avec ces élections législatives, nous nous enracinons définitivement dans la vie politique française. Il n'y a pas de grand mouvement dont le président ne soit pas présidentiable. Il n'y a pas de grand mouvement qui ne présente pas des candidats dans toutes les circonscriptions législatives. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est d'ailleurs en plus pour nous un impératif, je dirais, politique de présence systématique. C'est aussi un impératif, je dirais, de développement financier, puisque c'est aussi à partir des résultats aux élections législatives qu'est calculée la subvention d'État. Donc il y a un ensemble d'impératifs qui nous obligent, dans le cadre du développement de notre courant de pensée, de notre famille politique, à être présent à ces deux élections.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises dans d'autres interviews dans la presse la différence, d'ailleurs assez remarquable, entre les résultats, les scores que vous prêtent certains sondages et les scores qui sont réalisés sur le terrain lors des élections partielles, qui se sont déroulées récemment. Alors il était évident qu'on peut comparer que ce qui est comparable, mais... Tout de même, quel est votre sentiment aujourd'hui sur le mouvement, non pas le mouvement politique, mais le mouvement des idées en votre faveur ou en votre défaveur? Est-ce que vous avez l'impression que il se passe quelque chose? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça frémit?
Alors, moi je pense, on pourra peut-être dire un mot des sondages tout à l'heure, mais c'est peut-être pas... c'est vrai que c'est quelque chose qui, surtout sur cette antenne, est largement développé. Mais il est certain que sur le plan des idées... sur le plan du développement de notre courant politique, moi, je sens énormément de facteurs positifs. Pourquoi ? D'abord parce que les problèmes, hélas, s'aggravent. Je dis hélas, mais d'une certaine façon, je pense que ça n'est pas totalement négatif, parce que je crois, moi, personnellement, je suis convaincu que la France va se sauver, mais qu'elle ne se sauvera qu'au bord du gouffre, et que pour y arriver, il faut sans doute s'en rapprocher encore un peu. Et c'est ce qui se passe. Hein, on peut le dire, avec le coup de gong du 11 septembre, est-ce que ça implique en termes de menace islamique, avec l'explosion de l'insécurité, avec le Stade de France, est-ce que ça a révélé en termes de menace sur le terrain de l'immigration? Tout ça montre que les problèmes s'aggravent très dramatiquement. Deuxièmement, je crois que les Français prennent conscience de la gravité des problèmes et qu'ils sont de plus en plus nombreux à partager nos indignations, nos colères, à partager nos aspirations et nos espoirs. Je crois également que la classe politique continue inexorablement, avec beaucoup de constance et de détermination, à se discréditer dans l'opinion des Français. On voit bien que la campagne électorale va se centrer essentiellement sur les affaires. Je t'envoie du Schuller, je te renvoie du Telade. Et puis, n'oublions pas, enfin, que nos idées progressent un petit peu partout en Europe. Moi, je suis frappé de constater que beaucoup de ce qui est dans notre programme est actuellement en débat à l'Assemblée nationale italienne, est actuellement en vigueur dans la législation autrichienne ou est annoncé par le gouvernement danois.
Donc, on a même par le gouvernement britannique pour certains.
Et même par le gouvernement britannique, absolument. Donc, si je mets tout cela bout à bout, avec le dernier élément qui est la rénovation de la droite nationale, eh bien, les problèmes s'aggravent, les Français se réveillent, la classe politique se discrédite, nos idées progressent en Europe, la droite nationale se rénove, les éléments se mettent en place pour un grand basculement politique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la France a été, à travers l'ancien Front National, à la pointe du combat national pendant des années. Nous avons été déplacés, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir, nous avons été dépassés par un certain nombre d'autres pays étrangers. Il n'y a aucune raison qu'on reste en retard. On va reprendre notre place et il n'y a aucune raison que ce qui s'est passé, ce qui se passe dans un certain nombre de pays voisins ne se produise pas demain en France. Donc je crois qu'il y a toutes sortes de perspectives positives qui se présentent à nous et que nous avons le devoir de concrétiser et de réaliser.
Je vous posais deux questions un peu semblables. Au niveau européen, est-ce qu'il y a des partis, des mouvements, des hommes dont vous vous sentez plus proche et lesquels ?
Oui, alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, je crois que la France doit développer son modèle propre et avoir sa voix originale à elle. On ne peut pas dire ici qu'on va essayer de faire ce qui a été fait par Berlusconi et Fini, ou bien de dire que non, c'est plutôt ce qu'a fait Haider en Autriche, ou plutôt ce qui a été fait par la Danoise nationaliste là-bas à Copenhague. Je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui se fera en France, ça sera original, avec une voix originale. Néanmoins, il est clair que ces trois pays me paraissent extrêmement intéressants. J'ajouterai ce qui se passe en Flandre, avec nos amis du Vlaams Blok. Et d'ailleurs, à notre convention de Nice, nous avons eu des messages où la présence de gens du Vlaams Blok, de gens de l'Alliance Nationale ou du FPO de Haider. J'ai d'ailleurs eu pour ma part l'occasion de me rendre en Autriche à l'invitation du journal Zur Zeit, qui est le grand journal proche du FPO, pour constater qu'il y a quand même beaucoup de points de connexion avec ces différents mouvements européens.
Et maintenant, deuxième question, un peu parallèle, peut-être plus difficile. Est-ce qu'en France, il y a des hommes ou des partis dont vous vous sentez, je ne dirais pas plus proche, mais avec lesquels vous vous sentez plus d'affinité que d'autres ?
Oui, bah écoutez, il y a bien évidemment ceux qui sont dans le champ de ce que j'appelle la droite nationale et républicaine. Bon, à commencer par le Front National, bien évidemment. Également le RPF de Pasqua. Quoi qu'on puisse penser de Pasqua, il est certain que ceux qui sont dans son orbite sont quand même des gens qui, à bien des égards, pensent aussi comme nous, que ce soit également le MPF de Villiers, et puis des gens qui sont dans d'autres partis et qui, malgré tout, malgré ce que disent et ce que font leurs leaders, sont proches de nous. Donc il y a quand même toute une nébuleuse dont je pense pouvoir dire qu'ils sont proches de nous. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, si c'était le sens de votre question, l'équivalent de Berlusconi en France, ça c'est clair.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la droite nationale, dans son ensemble, a, entre guillemets, raté quelque chose en ne parvenant pas à faire ce que Chevènement semble être en train de faire, c'est-à-dire coaguler autour de lui des énergies, des volontés, des intelligences qui viennent d'azimuts complètement différents, opposés, voire antagonistes. Est-ce qu'il n'y avait pas une chance notamment à travers vous, par exemple, de réaliser cette,
ce mouvement. Moi, je suis pour un rassemblement. Je suis pour l'ouverture, je suis pour la main tendue. C'est d'ailleurs ce que nous avons commencé à faire aux élections municipales, hein, puisque sur les quelques 500 listes qu'on a présentées, enfin les 400 listes dans les grandes villes, il y en avait une trentaine qui étaient des listes d'union, d'ailleurs pas toutes dirigées par des membres du MNR, c'est la règle du jeu. Mais un rassemblement à l'achevènement, alors là je n'y crois absolument pas. Parce que je ne pense pas qu'on puisse mettre ensemble des gens qui sont radicalement opposés sur des questions fondamentales. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de ce qu'on peut appeler le souverainisme. Hein. Moi je suis pour la souveraineté nationale. Mais le programme qui est le mien ne se réduit pas à la reconquête de la souveraineté nationale. Parce qu'au fond, la souveraineté nationale, ça n'est qu'un moyen. C'est simplement la capacité qu'on a à décider de son sort. Encore faut-il savoir ce qu'on veut faire une fois qu'on est en mesure à nouveau de décider de son destin. Et on voit bien autour de Chevènement qu'au-delà de la souveraineté, ensuite, les gens ne sont plus du tout d'accord. Quand vous avez, par exemple, d'un côté, Monsieur Jean-Pierre Michel, le député chevènementiste qui est à l'origine du PACS et qui milite pour l'adoption des couples par les couples homosexuels des enfants, et qui veut faire au fond du PACS une forme de mariage comme le mariage traditionnel, et que de l'autre côté, vous avez Monsieur Pinton, ancien de l'UDF, qui avait milité, lui, au contraire, contre le PACS, organisé cette grande manifestation à Paris contre le PACS à laquelle nous avions d'ailleurs participé. C'est vraiment le mariage de, c'est le cas de le dire, du feu et de l'eau, et ça se termine en fumée. Hein. Donc je crois que ça n'est pas jouable.
Il y a un côté court du roi Péto là-dedans qui est assez étrange d'ailleurs. Et on peut pas croire une seule seconde que ça durerait au-delà d'un résultat. Dans l'hypothèse assez invraisemblable d'une victoire à la présidentielle de Chevènement. On peut pas croire une seconde que ça résisterait. Tout ça.
Ça se terminerait, comme chaque fois avec Chevènement, par la démission de Chevènement. Oui. Alors, j'ajoute d'ailleurs qu'il faut quand même pas oublier que Monsieur Chevènement est un homme de gauche. C'est même un ancien extrémiste de gauche, quand même. Le CRS, c'était quand même l'aile gauche de la conglomérat socialiste mitterrandien, et que Monsieur Chevènement. C'est quand même un peu caricatural, a été ministre de l'Intérieur pendant 4 des 5 dernières années, donc il est avec Jospin co-responsable de l'explosion de l'insécurité, c'est lui qui a régularisé 150 000 clandestins, et c'est lui qui a encouragé l'installation, beaucoup plus que n'importe quel autre ministre de l'Intérieur avant lui, encourager l'installation de l'islam sur notre sol. Autant de choses qui sont pas vraiment compatibles avec le discours sur la France, avec le discours sur la République ou avec le discours sur la sécurité.
Ça donne vraiment l'impression de n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on regarde la carrière de Chevènement, on a l'impression que c'est un personnage désarticulé qui marche un peu, qui va un peu dans tous les sens, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi.
Absolument.
C'est un ancien kémaliste. Enfin bon,
il est un peu comateux le personnage.
Oui, mais ça, à la limite, c'est moins grave, je dirais, parce qu'on peut. Tant qu'il fait rien, il est pas dangereux. Mais le jour où il va s'y mettre, ça va devenir vraiment dramatique.
Mais je ne pense pas. Ceci dit, contrairement à certains, je ne pense pas que Monsieur Chevènement puisse aller très très loin. Parce que je pense qu'il y a quand même, heureusement, des règles en politique, des règles d'expérience. On peut tromper sur un coup. Alors oui, on peut faire un score, mais on ne peut pas tromper sur la durée. Et on ne peut pas faire une victoire politique sur une imposture complète. Ça me paraît difficile à concevoir.
Ah, moi, j'ai un nom quand même de victoire politique assez retentissante sur une imposture complète, mais je voudrais pas vous faire.
D'accord, bon, ben,
enfin, vous mettre mal à l'aise, donc je ne sais très pas. Ce que je vous propose, c'est plutôt que de d'énumérer les points du programme, parce que vous avez publié appeler ça un programme, ce qui s'appelle « Pour remettre de l'ordre en France de A à Z », qui est une petite brochure qui tire bien dans la poche, qui est d'ailleurs fort bien faite et fort bien mise en page. Je le dis pour les gens qui l'ont fait, que je ne connais pas.
Monsieur l'équipe du MNR.
Enfin, que je ne connais pas. Je ne sais pas qui l'a fait, mais je trouve que c'est assez bien foutu. Et plutôt que de lire cette brochure, je vous propose de prendre des moments de l'actualité, des points de l'actualité, et de voir comment... À travers votre programme, on peut quel regard on peut poser sur ces points d'actualité.
Sur ce que vous avez dit juste avant, j'ai trois messages. Monsieur Maigret, que pensez-vous du documentaire « Les faces cachées de l'extrême droite en Europe » diffusé sur Arte hier soir? Dans cette émission thématique, c'était sur le néo-nazisme en Europe, on a vu un reportage sur vous. Et puis, dans ce film de propagande, nous dit un autre auditeur, le MNR a été plusieurs fois cité et non le Front National. Est-ce que ce dernier ne serait plus concerné par les médias comme étant d'extrême droite? Monsieur Maigret, ajoute cet auditeur, êtes-vous devenu libéral? Je ne vois pas bien comment les choses s'enchaînent.
Écoutez, je dois dire que j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je n'ai pas vu cette émission. Il est clair que je ne me considère pas comme d'extrême droite. Hein. Notre mouvement se considère comme faisant partie de la droite nationale.
Néo-nazi.
Et encore moins comme néo-nazi, bien évidemment. Hein. Donc ça fait partie apparemment de ces amalgames tout à fait déplaisants.
L'appellation néo-nazi, maintenant, il faut quand même savoir que ça commence pratiquement sous le trône de Saint-Pierre. Donc, parce que vous avez remarqué que, comme me le faisait remarquer Jean Ferré, il y a quand même une grande innovation dans l'histoire du monde depuis quelques jours. C'est-à-dire que jusqu'à une date récente, tout le monde pensait qu'il y avait eu un pacte germano-soviétique qui avait été signé entre les nationaux socialistes et les socialistes internationaux en 1939 pour la conquête du monde. Ben, apparemment, c'était pas ça du tout. C'était un pacte catholico-hitlérien ou hitléro-papiste dont Monsieur Costa-Gavras nous révèle tous les dessous immondes depuis quelques jours. Donc c'est pas trop grave d'être traité de néo-nazi en ce moment, étant donné que même Pie XII pratiquement était le chef de la cinquième colonne.
Le plus drôle dans l'affaire, c'est que quand même, dans un passé, il n'y a pas si lointain, c'était les amis politiques de Monsieur Costa-Gavras qui étaient traités d'hitléro-trotskistes. On est toujours l'hitlérien de quelqu'un.
Oui, c'est ça. C'est la réduction ab hitléro.
Et à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais faire une autre remarque, parce que vous faites allusion au film qui a surtout défrayé la chronique par son affiche, où on voit une croix transformée en croix gammée. Moi, je peux, et malgré le recours qui a été engagé par la griffe, la justice n'a pas donné suite, et je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cette absence de réaction de la justice avec la condamnation qui est intervenue tout récemment en Alsace à l'encontre d'un conseiller régional, Monsieur Becker, qui a été condamné en première instance à près de 5 ans d'inéligibilité, pour avoir expliqué que l'islam et 18 mois de prison avec sursis pour avoir expliqué que l'islam était machiste, à peu près ça.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ce qui est faux d'ailleurs, l'islam n'est pas du tout machiste, tout le monde le sait. L'islam vénère la femme.
D'ailleurs, les femmes afghanes peuvent en témoigner.
Et pas seulement afghanes, les femmes à peu près tous les pays islamistes peuvent témoigner de espèce de vénération, de respect extraordinaire dans lequel elles vivent. Et d'abord, dans Paris, on voit bien. D'ailleurs, la preuve qu'il les aime et qu'il les respecte, c'est qu'il les embobine. Enfin, il les emballe à peu près comme on emballe un objet précieux.
Le disait si poétiquement Chard dans l'un de ses dessins, les femmes afghanes sont complètement emballées par les talibans.
Alors, la première affaire dont je voudrais que vous nous parliez, enfin, sur laquelle je voudrais que vous nous donniez votre sentiment, c'est ce drame qui est intervenu à la Seyne-sur-Mer il y a quelques jours, cette petite fille qui a été violée par un immigré clandestin tunisien, ce qui a valu à cet immigré clandestin tunisien, parce qu'une fois, il n'est pas tombé, il n'est pas tombé sur une lopette, le père de la petite fille a pris son fusil, il est allé le couper en deux dans le café qu'il fréquentait habituellement. Alors, on peut trouver que c'est des méthodes expéditives. Enfin, je voudrais voir votre sentiment sur cette affaire.
Alors, mon sentiment, c'est facile de le connaître, puisque j'ai pris la peine de me déplacer personnellement à Toulon, où je suis allé apporter mon soutien à ce jeune père de famille de 35 ans, Monsieur Ferrer, qui est par ailleurs artisan plâtrier, je crois, appartenant à une vieille famille de la Seyne-sur-Mer, bien connue des habitants de la ville. Et je suis allé lui apporter mon soutien, non pas bien sûr que j'approuve son acte, mais je le comprends et je considère que c'est lui qui est la victime et qui est la victime de la classe politique, des responsables politiciens, au moins pour deux raisons majeures. C'est que si les politiciens appliquaient les lois, même les lois et actuelles, je ne parle même pas de celles qu'il conviendrait de faire voter, mais même si les lois actuelles étaient votées et étaient appliquées, eh bien cet immigré clandestin tunisien qui est le violeur de sa petite fille aurait été expulsé, n'aurait donc pas pu commettre ce crime et l'affaire n'aurait pas eu lieu. Si d'autre part la justice était juste, si elle punissait les coupables, si elle apportait réparation aux victimes, eh bien, M. Ferrer, lorsqu'il a entendu sa petite fille lui dire « Papa, venge-moi », il aurait songé à aller au commissariat de police ou chez le procureur de la République, ayant confiance dans la justice de son pays, et il n'aurait pas pensé à aller se faire justice lui-même.
Il y a un autre aspect, pardon de vous couper, dans cette affaire, puisque vous parlez de la culpabilité de la justice dans ce drame. Le drame étant pour moi le viol de la petite fille, hein, ça c'est bien clair.
Bien évidemment.
Y a un autre aspect, c'est le fait que on nous rebat les oreilles depuis des mois là avec cette histoire, avec l'histoire de la présomption d'innocence. Et on nous dit, on a remis en liberté récemment un gros trafiquant de drogue et on a mis M. Ferrer en prison. Or, en droit, la détention de Ferrer ne se justifie absolument pas, puisqu'il ne conteste pas son geste. Et il n'est pas susceptible donc de faire disparaître des preuves de son geste. Et d'autre part, il n'est pas susceptible de récidiver ou d'éliminer des témoins.
C'est le troisième scandale dans cette affaire. Le troisième scandale ahurissant, c'est qu'effectivement, la justice, qui a récemment relâché des trafiquants de drogue, des violeurs, parfois condamnés à 14 ans de prison ferme au lendemain de leur condamnation, a refusé sa liberté conditionnelle à M. Ferrer, alors qu'en effet, comme vous le dites, il offrait toute garantie. C'est même lui qui est allé spontanément, après son geste, se constituer prisonnier auprès des forces de police. Et il est resté en prison. Sa petite fille l'attendant toujours à la sortie du tribunal.
Et est-ce que vous ne croyez pas quand même que là, il y a un signe dans dans la façon dont cette affaire s'est déroulée par la suite? Il y a un signe de l'apathie, de la démission du peuple français lui-même, c'est-à-dire des citoyens français. Parce que une affaire comme ça, normalement, il devrait y avoir un piquet de grève à l'américaine devant la prison, 24 heures sur 24, des gens qui tournent en rond en brandissant des pancartes, libérer M. Ferrer. Enfin, ça me paraît évident.
Alors, il y a eu quand même, il faut le reconnaître, il y a eu un courant de sympathie et de soutien envers M. Ferrer qui a été tout à fait spectaculaire, puisqu'il a reçu des milliers de pétitions pour demander sa libération. On ne peut pas dire que, disons, les Français n'aient pas réagi. Hein. Alors, bien sûr, ça n'a pas eu d'effet, ça n'a pas eu l'effet qu'on en espérait. Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas eu l'effet. C'est au nom de l'ordre public que M. Ferrer restait en prison.
C'est pour le protéger, probablement.
Pour le protéger, ouais. Soi-disant. C'est-à-dire, en réalité, parce qu'on a cédé à la pression des amis du violeur qui, comme à leur habitude... Bah. Menaçait de tout casser si l'intéressé était relâché.
Ça nous amène, oui.
Je note une chose, c'est que certains journaux que je ne citerai pas ont parlé de l'affaire de M. Ferrer en disant il a tué le violeur présumé de sa fille. Or, je constate que les mêmes journaux, quand il y a eu une affaire où un jeune Français avait tiré en l'air à la Seyne-sur-Mer, où un jeune Français avait tiré en l'air pour se protéger d'une bande de jeunes qui étaient en train de l'agresser à coups de barre de fer, lui, je peux vous dire que les mêmes journaux ne l'ont pas déclaré présumé agresseur.
Bien sûr.
Il était agresseur tout court.
À propos de... Enfin, pour rester sur l'affaire Ferrer, ou les environs de l'affaire Ferrer, il est évident, vous venez de le souligner, qu'il a été maintenu en prison pour calmer la racaille qui naturellement prenait parti pour le violeur qu'il a coupé en deux. Et ce véritable chantage aux incidents et à l'émeute, on en voit aujourd'hui une autre preuve, on en a vu tout récemment, hier, une autre preuve à Évreux, où qu'un trafiquant de drogue était mort en garde à vue, parce qu'il avait avalé des capsules contenant de la cocaïne, dont une s'était rompue dans son estomac donc il est heureusement mort, ça c'est pas volé, eh bien à cause de ça, toute la racaille d'Evreux et de la région d'Evreux a mis la ville à feu et à sang, chose dont parle d'ailleurs, je le souligne, pratiquement uniquement à la une, le journal gratuit Métro, qui est remarquablement bien fait. On le regardait tout à l'heure avec Fersan. C'est des gens qui pourraient donner des leçons à beaucoup de journalistes ou prétendus tels qui font des journaux à vendre. Enfin, non, pas à vendre, parce qu'ils sont vendus depuis longtemps.
C'est simple, quand j'ai lu Métro, j'ai pensé immédiatement. J'ai cru sur le moment que c'était un quotidien du soir, et je me suis dit, tiens, ils ont amélioré la mise en page et la qualité des articles.
Oui. C'est-à-dire, pour une fois, ils nous en donnent pour notre argent. Là. Et donc, à Évreux, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé.
Absolument.
Mais la ville a été littéralement mise en état de siège. Les quartiers de la Madeleine, de Netreville ont organisé des échauffourées, des dizaines de véhicules brûlés, cassés, des vitrines brisées. Et alors, chose extraordinaire, quand on voit ce qui se passe quand il y a une manifestation de la droite nationale à Paris, ou ailleurs d'ailleurs, là, il n'y a pas eu une interpellation. C'est-à-dire que pendant des heures, commandos d'une dizaine de jeunes ont cassé, brûlé, saccagé, détruit, pillé. Il n'y a pas eu une arrestation. Hein. Aucune interpellation n'a été effectuée lors de ces affrontements qui ont duré plus de 3 heures. Les manifestations qui opéraient par groupe de 10 étaient munies d'engins incendiaires et de battes de baseball. Ces violences font suite au décès d'un jeune homme de 26 ans, mort d'overdose après la rupture de l'enveloppe d'un certain nombre de sachets de cocaïne qu'il avait avalés dans l'enceinte du commissariat d'Evreux. Ça, parce que, vous voyez, j'aurais pu avaler des bonbons Haribo, c'est moins dangereux quand même.
Mais moins cher.
Je crois que tout ça est parfaitement révélateur, d'une part, bien sûr, du laxisme total des autorités, du gouvernement et de la classe politique. C'est aussi révélateur d'un autre phénomène dont il faut avoir conscience. C'est qu'il ne s'agit pas là seulement de délinquance ordinaire de droit commun. Il y a derrière ça quelque chose qui, je crois, est également extrêmement inquiétant. C'est qu'il y a la volonté de mettre en échec l'État français dans une démarche, je dirais, de conquête. Lorsque les jeunes empêchent les forces de police de pénétrer dans un quartier, s'en prennent aux pompiers, s'en prennent aux agents de l'EDF ou des télécoms, c'est du droit commun, mais c'est aussi la volonté de prendre le contrôle d'un territoire et d'empêcher, en effet, la souveraineté nationale française de s'exercer sur ce territoire. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pour l'instant que de pâtés de maisons, de groupes d'immeubles, de quelques tours, ce sont des cités, mais justement ces fameuses cités de non-droit, ce sont des cités où la souveraineté nationale est rejetée, et c'est donc une démarche de conquête. Et lorsque les jeunes d'Evreux s'en prennent, là aussi aux forces de police et aux représentants de l'ordre, parce que l'un des leurs est mort, c'est une démarche, je dirais, militaire, c'est une démarche guerrière, c'est une démarche d'affrontement de civilisation, c'est une démarche d'un camp contre l'autre.
À propos des cités, des zones de non-droit que vous venez d'évoquer, dans le programme pour remettre de l'ordre en France de A à Z, vous proposez, je dirais de façon presque prémonitoire, l'abandon de la politique de la ville qui a échoué. Or, on sait que oui. la politique de la ville vient d'être dénoncée, et avec quels arguments et quelle vigueur, par la Cour des comptes, qui dit on a dilapidé des milliards, on a filé de l'argent à n'importe qui, sans aucun contrôle, sans aucune surveillance, sans aucun compte. Et le résultat est absolument nul. Donc,
exactement.
Abandonner la politique de la ville, c'est une chose, mais pour la remplacer par quoi?
Mais vous savez, moi j'en ai fait avec mon épouse et nos amis de Vitrolles l'expérience concrète. Lorsque nous avons gagné les élections à Vitrolles en 1997, on a immédiatement supprimé tout ce qui relevait de la politique de la ville. Alors on a licencié les animateurs d'atmosphère, les agents d'ambiance, les éducateurs de rue, les éducateurs de cours, etc. Et on a recruté à la place des policiers municipaux. Et j'en garde encore le souvenir, lorsque nous avons fait cela, le préfet de police de Marseille nous a appelés catastrophés. Vous ne vous rendez pas compte, vous jouez les apprentis sorciers, la ville va exploser, c'est impossible. Faites attention, je vous aurais prévenu, ne faites pas ça. Bon, nous avons appliqué notre programme, on l'a fait, il ne s'est absolument rien passé de ce qu'il annonçait, et au contraire, l'insécurité a diminué. Donc, à petite échelle, dans une ville de 40 000 habitants, nous avons fait exactement ce que je propose de faire aujourd'hui en tant que candidat à l'élection présidentielle à l'échelle du pays, rayer d'un trait de plume la politique de la ville et les 35 milliards de francs que ça nous coûte chaque année. Et c'est exactement, à mon avis, la somme qu'il est nécessaire de consacrer pour renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie, dont le budget global est de 60 milliards de francs. Si on augmentait ce budget de 50%, vous pensez que la police et la gendarmerie auraient enfin les moyens et les effectifs suffisants et les moyens d'agir pour faire correctement son travail. Il faudra en plus, bien sûr, changer les lois, parce que ça, c'est le deuxième volet que nous proposons. Aujourd'hui, les lois sont faites pour protéger les voyous. Il faut maintenant des lois pour les punir. Et la loi Guigou est quand même absolument extraordinaire de ce point de vue. C'est, je crois, ça restera dans l'histoire de notre pays comme le monument emblématique du laxisme pénal. Une loi faite pour protéger les voyous. Et je voudrais quand même rappeler...
Mais surtout les voyous politiques.
C'est ce que j'allais dire.
La partie de voyous,
c'est ce que j'allais
voyous.
Dire. Cette loi, c'est ça qui est extraordinaire. Cette loi a été votée par les socialistes, les communistes, les écologistes. D'accord, tout le monde le sait. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le RPR, tous les députés RPR pratiquement sans exception, ne se sont pas opposés à cette loi, ils n'ont pas voté contre, et que M. Chirac l'a signée en tant que président de la République, comme toutes les autres lois socialistes, mais celle-là notamment. Et c'est vrai que, pourquoi est-ce que cette loi est passée si facilement? Parce que lorsqu'on parle de protéger les voyous, ces gens-là se mettent à penser à eux. Ils se disent, ça pourrait toujours servir.
Mais hein, on en voit là. Alors, enfin, on voit bien comment ça s'est passé. Il y a eu d'un seul coup, pour des raisons d'ailleurs étranges, des tas d'hommes politiques qui se sont trouvés en prison. Et puis, pas des moindres. Ensuite, au bout de quelques mois, on a découvert que les conditions de vie carcérale en France n'étaient pas ce qu'on pouvait espérer. Effectivement, c'est vrai que... Et alors, ça, tous ces gens-là qui étaient au pouvoir depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans, ils ne savaient pas qu'en prison, on était mal.
Oui.
Hein? Alors, il a fallu qu'ils y aillent pour découvrir qu'effectivement, c'était pas un endroit confortable. Alors, du coup, ils se sont dit, il y a deux solutions. Ou on améliore les prisons, la vie dans les prisons, ce qui serait quand même, à mon avis, la moindre des choses, et ça coûterait moins cher, enfin, ça coûterait pas trop cher, où on... Mais c'est assez mal vu de la population qui dit pourquoi vous donnez du fric pour ces gens qui sont en tôle, après tout, c'est pas des colonies de vacances. Donc on va pas faire ça, on va plutôt faire une loi pour essayer d'éviter d'y aller. C'est exactement ce qui
s'est exactement passé. C'est exactement ça. C'est pour ça que lorsque je les vois maintenant faire des rodomontades sur le thème de l'impunité zéro ou de la punition des délinquants et des criminels, je trouve ça énorme, hein, et je vois pas comment on peut, il y a un an, être partisan du laxisme total et aujourd'hui de l'impunité zéro.
Oui,
c'est pas
ça,
sérieux.
Ça les arrête pas. Il y a d'ailleurs, à propos de rodomontade, une anecdote qui est racontée par Jean Cochet dans le présent, qui s'est déroulée au cours de la visite de Jospin au salon de l'agriculture. On va en parler tout de suite puisque vous en venez. Et alors, voilà ce que raconte Cochet. Tout ne fut pas rose pour Jospin dans ce salon de l'agriculture où il a été notamment interpellé par un restaurateur qui pratique la grève de la TVA. Mais alors là, pas de laxisme, c'est sur un ton froid et cassant, avec de la colère et du mépris dans le regard, que Jospin a répliqué, de pauvre des guillemets. « Monsieur, je désapprouve fortement votre mouvement et mon gouvernement ne restera pas sans réagir, certains le constateront bientôt. » Point, fermez les guillemets. Autrement dit, en France, vous pouvez tout faire, foutre le feu aux voitures. À Évreux, on n'arrête personne. Mais si vous faites la grève de la TVA, alors là, Jospin, d'un seul coup, il se réveille. Il dit, ah non, pas de salisette. Nous, ils vont terroriser les grévistes de la TVA.
C'est typique de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est une société à deux vitesses. La justice implacable pour les honnêtes citoyens, le laxisme le plus total pour les voyous. Alors, dans le train, la personne âgée sera contrôlée et sévèrement sanctionnée et paiera son amende si elle n'a pas payé. la bande de voyous qui sème la pagaille dans le wagon d'un côté, on le contrôlera même pas.
Et là, le plus drôle, c'est que là, Jospin, par ce geste, vient absolument de prouver qu'il était trotskiste, puisque c'était exactement la politique de Trotsky en 17. Les voyous, on en faisait des soldats de l'armée rouge, et les honnêtes commerçants, c'était le goulag.
Est-ce qu'on donne la parole aux auditeurs tout de suite? Parce que j'ai d'autres questions, je vous vois en train de classer.
C'est-à-dire que je les range,
oui. Non, mais alors continuez à ranger, on fera ça après. Je parlais, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est. Je voudrais que cet entretien permette d'avoir une idée de votre projet, oui. De ce que vous voulez faire, etc. Et j'évoquais à l'instant l'existence de ce journal qui s'appelle Métro, journal gratuit. Est-ce que vous avez une réflexion sur la presse gratuite? Qu'est-ce que vous pensez de l'existence de journaux gratuits, d'informations, de journaux d'informations gratuites?
Disons que je ne suis pas fait encore réellement une doctrine sur la question, mais mon sentiment, c'est de considérer que plus il y a de diversité et de pluralisme, mieux c'est. Hein. Alors, je ne suis pas certain, en effet, que les journaux qui sont exclusivement financés par la publicité ça soit une garantie d'indépendance, mais comme on constate que les autres journaux qui sont censés être financés, en tout cas en partie par leurs lecteurs, ne sont pas plus indépendants, j'ai tendance à penser que ça va dans le bon sens. Quand je vois aussi d'ailleurs la réaction extrêmement agressive de certains journaux de la presse, du système, à l'encontre de ces journaux gratuits, j'ai tendance à dire que ça va plutôt dans le bon sens. Et si je regarde ce qui se passe dans ma région, c'est-à-dire à Marseille, où il y a un monopole épouvantable de ce journal qui s'appelle La Provence et qui impose un totalitarisme comme j'en ai rarement vu dans notre pays sur le plan politique, je me réjouis qu'un journal gratuit vienne un peu mettre en cause ce monopole insupportable.
Mais ce totalitarisme, il est général en France. Je ne sais pas si les Français se rendent compte du degré d'asservissement des institutions en général en France. Il y a un exemple qui vient d'être donné là tout récemment. Philippe Alexandre a écrit un livre sur Madame Aubry, qui est un livre qui n'est pas un livre à la gloire de Madame Aubry. C'est pas non plus un pamphlet, parce que Philippe Alexandre, c'est quand même pas un pamphlétaire virulent, mais c'est un papier qui dit voilà qui est le personnage d'Aubry. Et surtout, qui rend public des propos que Aubry a l'habitude de tenir. Tout le monde l'a entendu. Enfin, tous ceux qui ont fréquenté cette femme l'ont entendu. Quand elle déteste tout le monde, à commencer d'ailleurs par ses amis, qu'elle traite de nul à longueur de journée. Elle dit que Jospin est un imbécile, que Chenemont est un crétin, que Moreau est un taré. Enfin bon. Et alors Alexandre raconte ça. Alors, Aubry, folle de rage, a réuni son équipe et a étudié la question de porter plainte en diffamation, et finalement, ils ont décidé que c'était pas nécessaire de faire de la publicité au livre de Philippe Alexandre, et que par conséquent, on n'allait pas le poursuivre. Mais Philippe Alexandre a appris que la foire au livre d'un faubourg de Lille, à laquelle il devait participer, avait fait savoir, les organisateurs avaient fait savoir à son éditeur que M. Alexandre n'était pas le bienvenu et que cette invitation était annulée. Il faut savoir une chose, c'est que ça n'est pas la ville de Lille, ça n'est pas le maire de Lille, puisque ce faubourg de Lille a un maire de droite, enfin de droite, divers droite, et qui a dit, oui, effectivement, j'ai décidé d'annuler l'invitation à M. Alexandre parce que je ne tiens pas à participer à la polémique politique. Enfin, c'est extraordinaire.
Incroyable.
Alexandre a dit une chose tout à fait vraie. Il dit bah oui, c'est la Corée du Nord.
Oui, et oui. Ah, voilà. Mais il y a une phrase de Marchais à l'époque où il sévissait encore et à l'époque où l'Union soviétique existait encore qui me paraît bien représenter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il ne parlait pas de la presse, mais il parlait de l'édition et c'est à peu près pareil. Le journaliste lui posait la question, Monsieur Marchais, est-ce qu'en Union soviétique, n'importe qui peut se faire éditer? Et Marchais répond, bah, bien évidemment. Liberté totale, à condition de trouver un éditeur.
Eh bien, oui, et encore, c'est un avantage sur la France. Parce qu'en France, vous avez des gens qui, même s'ils ont un éditeur, ne peuvent pas être publiés. Je ne citerai pas leur nom à cette antenne pour ne faire de peine à personne. Mais je pense que c'est un sujet qui est connu d'à peu près tout le monde. On voit très bien de qui je veux parler. Là, je signale, ça n'a rien à voir que... Je vais dire, vous permettez, Bruno Hegel, que je fasse une annonce.
C'est votre émission, je vous en prie.
Comme je vous reçois, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir, je le répète. dans le cadre de l'intérêt suscité par l'affaire du film Amen de Costa Gavras, la réédition a été décidée d'un livre intégral, la réédition intégrale d'un livre publié en 65 par les éditions de la Table Ronde, Opération Vicaire, le rôle de Pie XII devant l'histoire, où était analysé de façon exhaustive et scrupuleuse le rôle du Vatican pendant la guerre, complété d'un dossier sur la nouvelle opération en cours, Amen de Costa Gavras. Par correspondance uniquement, le prix est de 16 € net, port compris, et vous pouvez adresser vos commandes directement à l'éditeur de cet ouvrage, Opération Vicaire, le rôle de Pie XII devant l'histoire. Alors, l'éditeur, c'est Monsieur Pierre Guillaume, qui n'est pas le commandant Guillaume, je le précise. Hein. Pierre Guillaume, boîte postale 98 75 223 Paris SEDEX 05. Boîte postale 98 75 223 Paris SEDEX 05. Chèque à l'ordre de Pierre Guillaume, 16 € port compris. Voilà, ça, voilà un éditeur qui édite ce qui lui plaît, et ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Enfin, on n'est pas sur Terre pour faire plaisir à tout le monde.
Peut-on parler de la liberté de la presse en France alors qu'il y a un monopole de la distribution, mais qui est peut-être en train de changer?
Il n'y a pas vraiment un monopole de la distribution, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une forme de monopole de la distribution par les nouvelles messageries de la presse parisienne. Mais tout ça va changer, bien entendu, parce que ça ne peut pas tenir longtemps. Revenons aux questions d'actualité. On a récemment annoncé que, tout récemment, il y a deux jours, que le mois de janvier, l'inflation en France au mois de janvier avait été de 0,5%, c'est-à-dire 5 fois supérieure à ce qu'elle était en général depuis plusieurs années. Et on a reconnu que c'était probablement dû à la mise en place de l'euro. Je rappelle que sur CNN, je l'ai dit déjà plusieurs fois à ce micro, les évaluations étaient légèrement différentes. Certains économistes américains évaluent la réalité de l'inflation pour le mois de janvier dans ce qu'ils appellent l'Euroland, la zone euro, à 2,5%, c'est-à-dire 5 fois plus que ce qui est avoué en France. Mais comme en même temps on apprend aujourd'hui que les évaluations qui avaient été livrées par les ministères compétents des conséquences de l'explosion de Tchernobyl sur la France étaient 10 000 fois inférieures à la réalité, on a de bonnes raisons de croire que l'inflation peut être 5 fois inférieure à la réalité quand elle est avouée par le pouvoir. Voilà. Donc je tout ce long préalable pour vous poser la question. Est-ce que, selon vous, premièrement, la mise en place de l'euro est une réussite, comme tout le monde le dit? Deuxièmement, est-ce que l'euro est une bonne chose maintenant? Et troisièmement, est-ce que l'Europe est une bonne chose?
Alors, s'agissant de l'euro, il est clair que, disons, le passage du franc à l'euro s'est fait dans des conditions relativement bonnes. Je crois que ce serait assez malhonnête de dire le contraire, mais ça n'a rien d'un exploit. C'est quelque chose qui, somme toute, est quand même assez simple à réaliser.
Oui, je dirais que quand on arrête l'ascenseur, il ne faut pas s'étonner que les gens prennent l'escalier sans râler pour rentrer chez
bien
eux.
Bien évidemment.
Ils n'ont pas tellement le choix.
Bien évidemment. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, ça n'est pas parce que les Français très vite sont passés à l'euro que cela révélait de leur part un enthousiasme pour l'euro. Simplement, les Français sont des gens pratiques, intelligents. Ils savent qu'ils ont compris très vite que pour que ça se passe au mieux, il fallait très vite passer d'une monnaie à l'autre. Et quand j'ai entendu certains commentateurs parler d'euphorie en matière pour l'euro, c'est aussi stupide que si on disait comme les Français aiment payer leurs impôts, ils se précipitent pour déposer leurs feuilles d'impôts avant la date limite. Bah oui, c'est exactement la même chose. Donc, passons sur cet aspect purement technique. C'est quand même, heureusement, encore possible pour l'État français de réussir une opération technique de ce type, surtout qu'ils ont mis 5 ans pour s'y préparer. Alors, ceci étant, la vraie question, bien sûr, c'est de savoir si l'euro est utile et si l'euro va nous apporter les avantages qu'on était censé en attendre. Bah, on constate qu'aucun de ces avantages n'est venu. On constate, comme vous le soulignez, que l'inflation, par contre, est au rendez-vous. On constate que la monnaie européenne n'a cessé de dégringoler face au dollar et donc n'est pas l'instrument de contrepoids face à la devise américaine qu'on nous avait annoncée. Et on commence à voir de façon plus structurelle, plus fondamentale, les difficultés qui peuvent résulter pour les États de ce carcan monétaire unique. Et paradoxalement, c'est pas chez nous que ça se manifeste le plus, mais paradoxalement, c'est en Allemagne que ça se produit. Avec la difficulté que rencontre actuellement l'économie allemande, l'explosion du chômage, la nécessité dans laquelle se trouve le gouvernement allemand de relancer la machine économique, le désir qu'il a de creuser un déficit budgétaire, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le faire, sauf à devoir payer une pénalité budgétaire considérable à l'Europe, ce qui aurait à nouveau des effets catastrophiques. Et on voit bien comment l'économie allemande se portant plus mal aujourd'hui que d'autres économies européennes est dans une situation bien plus difficile que si les Allemands avaient conservé leur marque et leur autonomie monétaire. En clair, ce que nous avions toujours dit, à savoir que faire une monnaie unique sur une zone économique qui n'est pas homogène, ça empêche ensuite les ajustements de se faire et ça conduit les économies à s'ajuster sur des facteurs autrement plus pénalisants que la variation d'un taux de change. Donc il y a là certainement pas mal de difficultés devant nous.
Mais ça doit faire partie du calcul. L'objectif, c'est évidemment de faire disparaître ce qu'on appelle la souveraineté, mais en tout cas la capacité d'initiative nationale à travers le régulateur en forme de verge de la monnaie unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune possibilité de moduler une politique budgétaire nationale, et ça veut dire plus aucune possibilité d'aucune politique nationale.
Oui, enfin, il reste quand même quelques leviers, mais c'est vrai qu'ils sont sérieusement diminués. L'ampleur des manœuvres est sérieusement diminuée, c'est indéniable.
Alors, un argument qu'on entend maintenant de plus en plus, y compris d'ailleurs au sein de la droite nationale, c'est au fond, est-ce que l'Europe n'est pas le seul moyen pour des pays comme le nôtre, comme la France, comme l'Allemagne, qui sont quand même des puissances de deuxième niveau par rapport, ou voire de troisième niveau par rapport aux États-Unis, le seul moyen de se donner une voix face aux États-Unis.
Oui, alors je pense que là, il faut avoir des idées très claires, parce que c'est une question où on fait facilement régner la confusion. Je constate, moi, que l'Europe de Bruxelles, parce que l'Europe, ça existe depuis des millénaires. Donc,
La
réalité géographique humaine et de civilisation est une notion qui n'est pas à construire, est une notion qui existe depuis de très nombreux siècles. Donc, la construction bruxelloise de l'Europe, de l'Union européenne, et je le dis, quelque chose de néfaste, parce que cette Europe est à la fois bureaucratique, antidémocratique, c'est-à-dire privant les peuples de leur capacité à décider eux-mêmes de leur destin, et mondialiste, plaçant l'Europe sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Donc c'est un système qui établit un carcan très fort, tellement fort qu'il y a maintenant moins de différence entre les États européens sur le plan juridique qu'il y en a entre les États des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez des États qui ont la peine de mort, d'autres n'en ont pas. En Europe, c'est absolument impossible. Bon, ça n'empêche pas les États-Unis de fonctionner comme un ensemble cohérent avec, à l'extérieur, une forte efficacité. Donc, cette Europe-là impose des contraintes terribles sans nous apporter le moindre avantage. Et par conséquent, elle est effectivement très malsaine. Alors nous, ce que nous proposons, ce que je propose dans mon programme présidentiel, c'est de modifier tout ça d'organiser plutôt le mot. C'est plus un problème d'organisation, de la famille des nations européennes, d'organiser une coopération dans le respect de la souveraineté des États, empêchant toute structure européenne de s'occuper de façon tatillonne de tout et de n'importe quoi, mais par contre focalisant les choses sur des objectifs stratégiques qui, en effet, peuvent nous redonner un minimum de puissance, un minimum d'influence dans le monde. Et il y a un exemple qui me paraît évident, c'est la nécessité de supprimer l'OTAN, qui ne sert plus à rien, puisque l'Union soviétique a disparu, le pacte de Varsovie a été dissous, et que l'OTAN ne sert plus aujourd'hui, si, ça sert encore à quelque chose, mais de très néfaste, ça sert à placer les pays européens sous la tutelle politique et militaire des Américains.
C'est le fauné voilà. Des États-Unis.
Faisons à la place une alliance militaire européenne, je dis bien une alliance, il ne s'agit pas de faire une armée intégrée européenne, chaque pays conserve son armée, mais comme ça a été le cas à maintes reprises dans l'histoire de l'Europe, on fait une coalition, on fait une alliance, et on peut ainsi, parce que ne l'oublions pas, l'Europe des 15 est aussi peuplée et aussi riche, et plus peuplée et aussi riche que les États-Unis d'Amérique. Comme pôle de puissance potentielle, c'est l'équivalent. Donc, effectivement, sur le terrain militaire, par exemple, cette alliance militaire pourrait parfaitement contrebalancer la puissance américaine et contribuer à rééquilibrer le monde. Cet ensemble européen pourrait être aussi, sur le terrain international, je dirais, une force diplomatique pour essayer, et je pense pour obtenir, qu'on substitue au nouvel ordre mondial américain un autre schéma d'organisation des relations internationales, moi que j'appelle le nouveau concert des nations. Au lieu de vouloir détruire les frontières et organiser une espèce d'intégration planétaire sous la houlette d'organisations multilatérales contrôlées en sous-main par les États-Unis d'Amérique, faisons en sorte que chaque nation reste souveraine sur le sol qui est le sien, dans la fidélité à ses traditions, à son identité, à ses valeurs de civilisation, et organisons l'harmonie entre les nations. C'est un autre modèle qui serait autrement plus efficace et plus porteur de paix que le schéma des Américains actuels.
D'autant plus qu'une armée européenne n'est pas à la limite une fin en soi, parce qu'il faut savoir que les États-Unis, un siècle après leur indépendance, donc je fais allusion à la guerre contre l'Espagne en 1898, chaque État membre des États-Unis à l'époque avait son armée, puisque à l'époque on parlait pas de, quand les États-Unis sont intervenus en Espagne, c'était le 47e régiment de l'État de New York, le 6e régiment de l'État de l'Alabama, et chaque État fournissait un quota dans l'armée américaine. Donc à la limite, la défense n'est pas une différence. On peut avoir, chaque pays européen peut garder son armée tout en ayant une certaine, entre guillemets, unité dans le commandement.
Exactement.
Bruno Maigret, merci. Juste à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Philippe Schletter, qui est quelque chose, directeur du Mouvement National de la Jeunesse, c'est ça ?
Absolument, et également responsable des relations extérieures du MNR.
Alors, vous êtes venu nous faire un point technique, je crois.
Oui, un petit point technique, tout simplement, puisque la transition que vous aviez faite, elle n'est certainement pas innocente sur le schéma européen, était simplement de rappeler que, vous le savez, nous avons eu notre convention présidentielle à Nice ce week-end, et au cours de cette excellente convention, nous avons annoncé, et j'ai pu annoncer, le soutien déclaré, soit par des messages, soit par des présences physiques, d'un certain nombre de représentants de partis nationaux européens qui sont venus apporter leur soutien à la démarche que nous construisons en France, et puis témoigner, s'il en fallait, de la convergence de vues à situation interne comparable, la convergence de vues quant à la manière de porter au pouvoir des droites nationales dans une Europe qui est celle dont nous parlons, à savoir une Europe des identités et de la puissance.
Vous êtes très jeune, directeur du Mouvement National de la Jeunesse.
J'ai 29 ans.
29 ans, oui, c'est ça. Vous êtes très jeune pour un vieux comme moi. Alors, je voudrais vous poser deux questions. La première, qu'est-ce qui motive plus exactement votre engagement politique en général? Le fait qu'à 29 ans, aujourd'hui, un jeune homme puisse entrer en politique, quel est le motif? Parce que c'est quand même, ça devient exceptionnel. Puis la deuxième question qui découle de la première, pourquoi avoir choisi le Mouvement National?
Écoutez, je crois que ce n'est pas une coïncidence qu'au MNR, aujourd'hui, le responsable des jeunes soit également celui qui serve de trait d'union avec nos partenaires européens. Je crois que ce n'est pas un hasard, puisque la donne politique nationale et internationale telle que nous avons pu la connaître et la reconnaître à partir des grands Big Bang, notamment celui du 11 septembre. Cette situation fait que l'avenir des peuples européens passe par une vision résolument jeune et moderne des clivages politiques actuels. Passe par le fait que les mouvements de droite nationale dans tous les pays d'Europe, c'est le cas au Danemark, c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Italie, c'est le cas même en Suisse, et c'est toute la vocation de ce que nous voulons réussir en France, c'est le cas également d'une certaine manière en Russie, ces partis de droite nationale, ces mouvements populaires de droite nationale qui sont pour certains au gouvernement, ont cette vision radicalement moderne des enjeux européens, qui sont des enjeux qui ne sont pas du tout ceux sur les clivages idéologiques forts du XXe siècle, qui sont des enjeux enjeu du choc de civilisation aujourd'hui. Et quand nous, nous parlons de choc de civilisation, nous appelons donc à une réponse de civilisation qui est une réponse globale, qui sera la réponse globale de l'Europe. Et la France a son rôle à jouer, et c'est pour ça que nos partenaires, nos futurs partenaires, nous ont rendu visite à Nice. Je pense que c'est pour ça.
Question personnelle, est-ce que vous croyez pas que... Est-ce que vous avez l'impression, plutôt que cette... l'enthousiasme européen que vous manifestez, parce que vous êtes attaché, à, ça se sent très bien, à, au projet européen, est-ce que ce n'est pas un truc un peu personnel? Parce que je crois savoir que vous êtes un cocktail de sens européen.
Vous savez, hein, si je voulais être très précis,
il y a du germanique,
j'ai,
il y a
fait,
du français,
j'ai fait mon petit calcul, je suis un immigré de la 16e génération, venant de Rhénanie et parfaitement assimilé, et ayant même perdu ma langue maternelle, ce qui me pénalise d'ailleurs dans mes échanges internationaux, puisque j'essaye tant que faire se peut d'éviter l'anglais, qui n'est pas la langue la plus européenne, bien qu'elle soit la langue la plus internationale.
Mais qui est quand même un peu votre langue maternelle.
Mais qui est aussi ma langue maternelle par un autre côté, je vois que vous êtes bien renseigné. Mais je crois effectivement que quand on regarde les exemples étrangers que j'ai cités, on peut citer que ce soit nos amis flamands, puisque le Vlaams Blok était présent à notre convention en la période, dans la personne de Philippe de Winter, qui est le président du groupe des députés flamands au Parlement flamand, qui est la figure de proue du Vlaams Blok dans la ville d'Anvers, où il réalise d'excellents scores qui fait que toute la classe politique se ligue contre lui. Quand on voit Philippe de Winter, quand on voit Andreas Mölzer ou Jörg Haider du FPE, quand on voit la nouvelle classe politique de l'Alliance Nationale ou de la Ligue du Nord, quand on voit Pia Kjaersgaard, la présidente du Parti du Peuple Danois, qui nous envoyait un message de soutien, je crois qu'on a de jeunes cadres modernes, responsables et mûrs pour les enjeux du 21e siècle, et c'est pour ça que nous avons très naturellement des contacts avec eux. Et peut-être, ce sera l'exemple le plus provocant, mais quand on voit un homme comme Vladimir Poutine, bien évidemment que les intérêts de la Russie de Vladimir Poutine ne sont pas immédiatement et totalement convergents avec ceux du MNR de Bruno Maigret aujourd'hui, on en est conscient. Mais je crois que comme par hasard, le MNR et le mouvement politique sur la classe politique française qui a le plus facilement identifié le péril islamiste et qui sait comment le combattre, Vladimir Poutine est le seul chef d'État qui ait aujourd'hui parlé sur toutes les scènes internationales de l'arc d'instabilité que représente l'islam, du Kosovo aux Philippines. Je pense qu'il y a là plus que des coïncidences et qu'il faut savoir s'en inspirer et savoir nouer des contacts pour un avenir qui nous rapprochera forcément.
Merci Philippe Schetter. Il faudra que vous reveniez pour développer ce rapprochement qui me paraît tout à fait intéressant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, les messages des auditeurs.
Les candidats à l'élection présidentielle étalent un programme de gouvernement, mais le chef de l'État ne gouverne pas. C'est le Premier ministre avec le Parlement. Que fera un président de droite s'il a un Parlement de gauche?
Mon ambition, élu président de la République, c'est d'avoir une majorité nationale, si vous voulez, hein, pour pouvoir gouverner.
Certaines logiques.
Je ne vous cache pas. Alors, voilà les opinions, on retourne en arrière.
Je fais une petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'il y a de la cohabitation, après cohabitation, après cohabitation? Parce que lorsqu'il n'y a plus de différence entre la majorité et l'opposition, les Français zappent avec une grande facilité qu'on ne peut pas leur reprocher, puisque c'est du pareil au même. S'ils restent dans le même système, c'est normal.
C'est TF1 et Antenne 2.
Mais évidemment.
Quand ils passent d'Ardisson à De Chavannes...
Un renouveau politique d'envergure, il n'y aura pas de cohabitation. Les gens feront leur choix, ils seront pour, ils seront contre, et ils ne changeront pas tous les deux jours.
Alors on revient en arrière, on dit, à propos de Chevènement, quels que soient les petits partis, ils n'arriveront pas à la deuxième place. Il faut faire un barrage à Jospin et à Chirac, donc voter Chevènement pour ne plus revoir du tout ni Jospin ni Chirac. Pour les législatives...
Ça s'appelle la politique de Gribouille,
ça.
Il va pleuvoir, je t'en ouvre l'eau.
Il faudra voter Maigret et MNR.
Très bien, ça c'est bien.
Malgré vos explications... Alors, la deuxième position à propos de Chevènement. Malgré vos explications convaincantes, beaucoup de gens de droite vont voter Chevènement au premier tour, pour justement éliminer Chirac et Jospin. Que dire à ces gens pour les faire changer d'avis? Donc vous avez répondu en disant ce que vous avez dit.
J'y ai répondu ce que je voudrais rajouter à propos de Chevènement, parce qu'il ne faut pas toujours voir les choses de façon négative. Il y a un aspect positif dans la mode Chevènement, c'est que nos idées nationales, républicaines, sécuritaires, sont tellement puissantes, tellement fortes dans l'esprit des Français, qu'elle s'exprime par toutes sortes de biais détournés. Et en fait, violence sourde à travers la chape de plomb du politiquement correct. Et au fond, chevènement, c'est quoi? C'est la façon très politiquement correcte d'exprimer des idées non politiquement correctes.
C'est-à-dire qu'en fait, vous, chevènement, il fait une collection de dinosaures, vous voudriez faire une collection d'idées, c'est ça?
À propos de l'euro, est-il une véritable monnaie européenne dans la mesure où ma banque me prend 15 euros pour encaisser un chèque de 150 euros tiré sur une banque belge ? Les frais de change autrefois me coûtaient beaucoup moins.
Tout à fait exact.
Monsieur Maigret, qui évoquait il y a quelques instants une augmentation de 50% des budgets de la police et de la gendarmerie, pourrait-il rapprocher le taux de force de l'ordre par tête d'habitant de celui de nations voisines telles que la Suisse ?
Oui, je sais, c'est le grand argument qui est avancé actuellement, c'est que nous avons un taux de policiers et de gendarmes par tête d'habitant qui est à peu près le même que celui des autres pays européens. Sous-entendu donc, on est dans la norme et par conséquent, il ne faut surtout pas augmenter les forces de police. Moi, je suis désolé, je ne raisonne pas comme ça. Je considère que l'insécurité explose. Et qu'il faut donc renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie et modifier les lois pour pouvoir punir les voyous. Si, une fois que la sécurité est rétablie, on peut à nouveau baisser le nombre des policiers et des gendarmes, pourquoi pas? Mais pour l'instant, lorsqu'un problème grave se présente, eh ben, il faut prendre les moyens et les moyens énergiques pour y faire face.
Un auditeur homosexuel vous envoie ce message. Ce n'est pas parce que les socialistes nous ont transformés en lobby que nous ne sommes pas capables de penser, que nous ne sommes pas capables de voter MNR. Je ne voudrais pas que Monsieur Bruno Maigret tombe dans ce piège.
Je ne tombe pas dans ce piège. Moi, ce sont des questions qui, à mes yeux, relèvent de la vie privée. Et par conséquent, je ne m'y immisce pas. Par contre, s'agissant de la
question qui a été évoquée, c'est la question de l'adoption d'enfants.
C'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. S'agissant du PAC, c'est s'agissant de l'adoption des enfants par les couples homosexuels. Je suis contre parce que je suis attaché à la famille. Je suis attaché à cette cellule essentielle qui est à l'origine de la vie, qui est à l'origine des valeurs qui fondent notre civilisation. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger.
Les idées qui se développent dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark sont plus proches des idées Madelin que celles de Maigret ou Le Pen.
Je ne suis absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord.
Moi, j'admire cet auditeur de savoir quelles sont les idées de Madelin. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Oui. Je suis obligé de le dire quand même.
Enfin, disons que c'est vrai que M. Madelin est pour le libéralisme.
Libertarianisme.
M. Madelin est un libertaire, en effet. Un libertaire sur le plan économique, mais aussi sur le plan, sur le terrain des valeurs et sur le terrain de la société.
La liberté du renard dans le poulailler, on connaît ça quand même.
Voilà. Je voudrais rappeler à cet auditeur qui a peut-être raté un épisode du film. M. Madelin n'est plus membre d'Occident depuis 1973.
Oui. Pardon.
Oui, je termine, parce que M. Madelin est partisan, par exemple, de la dépénalisation du cannabis. Il est partisan d'une immigration massive, ouverte, et par conséquent, je crois que ce n'est pas vraiment ce qui se fait en Italie actuellement. Même si nous sommes favorables, nous, à une plus grande liberté économique à l'intérieur de l'espace du territoire français.
Une auditrice s'est étonnée, quand vous avez parlé de la justice, de ne pas entendre citer le syndicat de la magistrature.
Oui, là, on parle beaucoup d'indépendance de la magistrature. Je crois que l'indépendance de la magistrature, il faut d'abord l'établir par rapport à un certain nombre de lobbies syndicaux qui le mettent en coupe réglée, comme le syndicat de la magistrature.
Je voudrais redonner un conseil à ce propos. Pardon,
je vous en prie.
De vous couper, mais il faut lire plus exactement le livre de Sophie Coignard qui s'appelle Omerta 2001, dossier Omerta 2001, dans lequel le chapitre sur la justice est absolument ahurissant, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est paru chez Albin Michel, et ceux qui ne voudraient pas lire le livre peuvent en lire un résumé assez complet dans le Libre Journal.
À Vitrolles, y a-t-il des voitures qui brûlent ?
Non, il n'y a pas de voiture qui brûle, je touche du bois.
Il
suffit de le dire pour que ça donne des idées à certains. Non, il n'y a pas de voiture qui brûle.
Il faut appeler un chat, en ce moment c'est plutôt la guérilla. Cela me rappelle ce qui s'est passé en 1954 en Algérie, à Oran. Ça a commencé comme ça et on sait comment cela a fini.
Oui, mais si on prend cette hypothèse-là, toute proportion gardée, ça a plutôt bien fini. Pour ceux qui étaient chez eux,
oui.
comme ils disaient. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi, je sais très bien ce que je veux dire.
Oui, tout le monde a compris.
Pourquoi prenez-vous M. Berlusconi comme référence, puisque c'est un renégat européiste de la même eau que Chirac et Jospin ?
Écoutez, je voudrais simplement citer un projet de loi qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale italienne du fait de M. Berlusconi. Ce projet de loi prévoit qu'aucun immigré extra-européen ne pourra s'installer en Italie s'il n'a pas un contrat de travail dûment signé et qu'aucune entreprise installée en Italie ne pourra signer un tel contrat de travail si elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas trouvé d'Italiens ou d'Européens susceptibles d'occuper le poste. Ça s'appelle la préférence nationale en matière d'emploi et c'est M. Berlusconi qui propose ce projet de loi à l'Assemblée nationale italienne. Alors je ne dis pas que tout ce que fait M. Berlusconi est bien, attention, mais je crois qu'il ne faut pas être, c'est un défaut de la droite nationale, il ne faut pas être trop sectaire. Lorsqu'il y a des éléments positifs chez nos voisins, il faut s'en réjouir, même si, effectivement, à bien des égards, par ailleurs, moi je trouve que M. Berlusconi est un peu trop atlantiste. Hein. Bon, mais il fait beaucoup de très bonnes choses.
Merci beaucoup. Non, on n'a plus le temps, c'est fini. Merci Bruno Maigret. L'adresse simplement du MNR est, pour se procurer le programme. C'était Philippe Setter.
MNR, 15 rue de Kronstadt, 15 rue de Kronstadt, dans le 15e arrondissement de Paris, 75 015.
Je signale l'existence du site www.bruno-maigret.com. Merci beaucoup, merci. Philippe Setter. Et puis à bientôt, vous reviendrez nous voir, parce que je sens qu'on a
plein de choses à vous dire. Intéressantes à se dire.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Serge de Bekech, dirigé en cette seconde partie par Daniel Amiche, assisté de Jacqueline Lovenbruck. Document d'archives du 27 février 2002, rediffusé dimanche 27 février 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission est réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bon, je suppose que Bruno Maigret nous écoute dans sa voiture en partant. Je l'informe donc que sa visite n'a pas été inutile parce que Fersan vient de me dire j'allais voter Miguet, mais finalement je vais voter Maigret. Et vous trompez pas hein, en lisant, parce que en lisant le bulletin.
Oui, mais il y en a qui sont trop européennes, ouais, semble-t-il.
Alors, il faut pas confondre hein, le bulletin. Alors Fersan, ça y est, voilà. Ouf, Miguet a perdu un électeur.
Il va être très triste, il va envoyer des lettres.
Oui, je pense.
Allez, ne soyez pas sarcastique.
Je signale à mes auditeurs qui ne peuvent pas le voir que Daniel Amiche, à qui je vais laisser le micro, s'est laissé pousser un bouc. Alors je lance un appel solennel à toutes les auditrices qui ont du goût. Hurler, protester et tout, parce que ça, c'est pas tolérable.
Je dois reconnaître que ça n'a pas été un succès auprès des dames que je fréquente.
Non. On va arrêter ça immédiatement. Monsieur l'abbé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, je pique 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à Daniel Ami, qui prend déjà un air épouvanté, pour recevoir monsieur l'abbé Bouchacourt. C'est une circonstance solennelle, puisque nous sommes à 25 ans, au 25e anniversaire.
Une génération.
C'est incroyable.
Une génération.
Tout ça ne nous rajeunit pas.
N'est-ce pas ?
Enfin, vous...
On garde le cœur jeune.
Vous êtes inoxydable, mais moi, je sens vraiment les premières atteintes de l'âge.
Allô.
Donc, je suppose que beaucoup de choses sont organisées. D'abord, quelle impression ça fait d'être depuis 25 ans dans une situation canonique quand même? Enfin, je ne veux pas m'étendre, oui. Mais...
C'est quand même un défi incroyable. Ouais. Parce que lorsque ça a eu lieu, il faut se rappeler les circonstances. Monseigneur Luc Bourget errait de salle en salle, avait été expulsé par le cardinal Marty de l'hôpital Laïnec, de la chapelle de l'hôpital Laïnec. Il allait ensuite à salle Wagram, puis rue de Rennes. Et d'un dimanche à l'autre, on ne savait pas où aller parce que le cardinal ne voulait plus de la messe de Saint-Bicenc. Alors, il y a eu en fait ce coup de génie extraordinaire de Monseigneur Luc Bourget.
Pardon, du coup. Je me souviens que c'était Figueras qui avait écrit un truc qui s'appelait Marty sans laisser d'adresse.
Tout à fait.
En l'occurrence, c'était plutôt Monseigneur Duc Bourget qui était sans adresse.
Alors, le Monseigneur Duc Bourget avait eu ce trait de génie, pour rappeler rapidement les circonstances. Un dimanche de février, 10 ans, dimanche prochain, rendez-vous à la mutualité. Et pour une grande réunion, effectivement. Les catholiques, sans savoir pourquoi, sont allés là dans cette à la mutualité, et à la mutualité avec l'abbé Serralda, qui avait été vicaire à Saint-Nicolas, faut pas l'oublier, qui connaissait très bien les lieux, et l'abbé Coache, qui avait une aura extraordinaire. Ils sont rentrés à la tête d'un peuple immense de Parisiens, et le curé était absolument stupéfait parce que son église était quasiment vide. Il faut là aussi rappeler que l'église Saint-Nicolas du Chardonnay avait fusionné avec la paroisse Saint-Séverin. On l'appelait la paroisse Saint-Séverin, Saint-Nicolas. Et donc, c'est une paroisse qui ne marchait plus du tout. Il n'y avait plus un sou qui tombait à la quête. Et là, ils ont vu, un dimanche, une foule inouïe rentrer avec quasiment aucun sou dans la quête et tout doucement, à la messe terminant, rester. Et alors là a commencé la grande histoire de Saint-Nicolas qui dure toujours. Et c'est vraiment, je crois, vraiment un miracle de la Providence. Parce que humainement parlant, rien ne peut laisser présupposer notre maintenance là.
Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on écrira la véritable aventure de Saint-Nicolas?
Ah, mais elle va être écrite d'ailleurs parce que les éditions Servir et Certitude vont faire justement une recension un album de ces journées extraordinaires.
Si vous me permettez, il faudrait pas que ce soit comme c'est un peu chez nous le défaut, c'est-à-dire c'est une chose un peu conventionnelle, on se congratule, on dit voilà, il faudrait raconter la véritable histoire, parce qu'il y a des anecdotes irrésistibles.
Ah oui, inouïes.
Irrésistibles.
Oui. Et l'abbé Laguérie en aurait 100 fois plus que moi à raconter, parce que c'était des années héroïques.
Oui, bon, on peut lui poser la question, il est quand même pas très loin.
Il est pas très loin.
Je me souviens de l'histoire où un soir, en fin d'après-midi, le piquet de surveillance affolé vient voir en disant venez vite, il doit se préparer quelque chose, il y a un arabe qui essaye de rentrer. Alors, les gens vont vers la porte, et effectivement, il y avait un type en djellaba qui voulait absolument entrer dans l'église. C'était pas un arabe, c'était le comte de Paris, enfin le futur comte de Paris. Les choses se sont arrangées rapidement, mais enfin quand même, et pourquoi il était venu en djellaba, grand mystère. Mais enfin voilà, c'était Riton. Hein, non, il ne faut pas chercher, mais c'est rigolo. Ça fait partie des 1000 anecdotes.
Mais je veux dire, la paroisse est devenue une référence. C'est lorsque Luc Besson a tourné son film sur Jeanne d'Arc, il cherchait désespérément la formule d'absolution en latin. Il a téléphoné aux paroisses, nous a dit sa secrétaire. Il n'a pas eu la réponse. Il a téléphoné chez nous et nous avons coopéré à ce film qui n'est d'ailleurs pas.
Vous avez donné l'absolution.
J'ai donné l'absolution à Besson.
Pas merveilleux, c'est une litote, monsieur Lavelle.
Je ne suis pas du tout d'accord.
C'est invraisemblable.
Je ne suis absolument pas d'accord. Je trouve qu'on n'a pas compris ce film. Il y a deux scènes qui sont épouvantables. Ça, c'est indiscutable. Mais par exemple, la fin, on a dit que... Enfin, ce n'est pas le sujet de ce soir. On a parlé du diable ou de Dieu qui aurait été montré sous les images d'un moine et tout. C'est pas ça du tout. Je crois qu'on n'a rien compris au film. Je l'ai vu. J'ai cru qu'on avait raison, mais bref. Ouais. On en parlera un jour. Alors, vous n'avez pas projeté Jeanne d'Arc pour le 25e anniversaire de Saint-Nicolas?
Non, nous on fait quand même un peu mieux, c'est même beaucoup mieux, puisque bon, il y aura effectivement une grand-messe solennelle, et j'ai essayé de faire en sorte que tous les prêtres qui avaient servi à Saint-Nicolas soient présents. Malheureusement, beaucoup sont retenus par leurs apostolats locaux, mais bon, Guéry sera là, bien sûr.
Il y a ceux qui sont montés directement au ciel, comme l'abbé Marchal,
l'abbé Marchal, puis tous ceux qui sont à l'origine de ce merveilleux coup.
Oui, et puis naturellement Monseigneur du Courberget, la Béséralda.
Alors effectivement, il y aura cette grand-messe à 10h30 le 10 mars, et après il y aura un énorme repas paroissial qui aura lieu à l'espace Austerlitz avec 1300 couverts. Et là, il y aura différents. D'abord, les gens se rencontreront. Il s'agit. Vous savez, Saint-Nicolas pense toujours beaucoup aux autres, a beaucoup aidé les communautés. C'est son rôle d'ailleurs. Attention, je ne le regrette pas. Mais Saint-Nicolas pense assez peu à la paroisse. Saint-Nicolas pense assez peu à elle. Eh bien, là, nous allons nous réjouir en famille. Et je crois que c'est important, non point parce qu'on est des nostalgiques, mais parce qu'on a besoin de se retrouver pour à nouveau mieux agir.
Vous, depuis que vous êtes curé de Saint-Nicolas, est-ce que vous avez constaté une évolution, et laquelle ? Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui est certain, voyez-vous, c'est que on pouvait dire, par exemple, il y a 15 ans, que ceux qui venaient étaient des nostalgiques parce qu'ils avaient connu l'ancien rite. Là, c'est plus le cas. Enfin, attention, il y a toujours, bien sûr, je pense 50%, 60% de gens qui ont connu l'ancien rite, mais il y a 40% de gens qui n'ont rien connu du tout.
Bah, regardez, Fersan qui est là, la famille Fersan et ses poules Fersan, ils n'ont jamais vu une vraie messe.
Ouais, ouais. Moi,
en dehors de Saint-Nicolas.
Moi-même, je n'ai pas connu les paroisses marchandes. Bon, j'ai connu la messe de Saint-Pie-V, dite encore dans les paroisses, mais j'y allais de façon ponctuelle. J'ai pas connu les paroisses tournant dans leurs heures de gloire. Non, j'ai pas connu ça.
Ah, mais c'est vrai, vous êtes vraiment un enfant.
Ah, oh, mais oui.
Avec moi, j'ai connu la vraie messe célébrée partout.
Ouais.
Moi, dans ma commune natale, l'une des dernières messes qui a été dite, donc c'est par le curé, l'une des dernières messes traditionnelles qui a été dite, c'était le mariage de mes parents.
Ah oui.
Et après, le curé a pris sa retraite pour ne pas avoir à appliquer Vatican II.
Voilà, le dernier endroit où j'ai pu aller, c'est à la Madeleine, avec Jean Popo, qui avait maintenu jusqu'en 71, je crois, la messe de Saint-Pie-V, et puis tout s'est arrêté lorsqu'il a pris sa retraite.
Enfin, alors maintenant, il y a entre autres Saint-Nicolas, donc 25e anniversaire.
Oui.
Alors ça se passe, vous nous avez dit.
Donc à l'espace, la messe à Saint-Nicolas à 10h30, la grand-messe, et puis à l'espace Austerlitz, qui est 32 quai d'Austerlitz, c'est à 50 mètres de la sortie du métro Austerlitz, il faut sortir par la bouche départ, je crois, et puis bon, ce sera fléché et vous serez accueillis.
Qu'est-ce qu'il y a, vous prévoyez des surprises, il y aura des... Si c'est des surprises, vous nous les direz évidemment pas.
Mais je ne dirai rien. Mais il doit y avoir normalement donc la sortie d'un livre, un livre encore de famille, non pas un album de souvenirs, et puis une cassette vidéo avec la messe à Saint-Nicolas, parce que cela correspond à une très grande demande. Beaucoup de gens n'ont pas la messe en province, non plus des paroisses, et certaines personnes sont malades et sont en fait horriblement seules. Alors, eh bien, mon Dieu, beaucoup de gens nous ont demandé de faire une cassette, la messe ordinaire, la messe paroissiale de Saint-Nicolas, et c'est ce qu'on va leur proposer.
Bien, alors on ira donc vous voir le 13 mars.
Alors je précise simplement que pour participer au repas, il faut demander, soit aller à Saint-Nicolas et réserver le repas en prenant un coupon de 5 euros qui sera défaqué d'ailleurs sur le montant du repas. Ou bien, si vous ne pouvez pas, vous venir chercher ce coupon, vous écrivez au 23 rue des Bernardins, à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, dans le 5e arrondissement, vous mettez un chèque de 5 euros et on vous envoie un coupon pour que vous puissiez participer et vous serez tous les bienvenus.
Je précise, ou je rappelle, ou j'ajoute, pour ceux qui ne savent pas, que Saint-Nicolas, c'est une vraie paroisse. C'est-à-dire, c'est exactement la paroisse qu'on avait quand... vous, Fersan, on n'était encore qu'une lueur de concupiscence dans le regard de votre père, mais moi j'étais petit garçon, et donc il y avait une troupe scout, il y avait un ouvroir, c'était extraordinaire.
C'est l'incarnation de la chrétienté, la paroisse. Elle est ancrée dans un quartier, et en fait, elle est la vie du quartier, elle rythme la vie du quartier. Il ne faut pas oublier que l'Angélus sonne, les heures sonnent, dès qu'il y a un enterrement dans le quartier, on va là, et en quittant la paroisse, on se retrouve chez le boucher. Tout est centré.
C'est une vraie paroisse de quartier.
Extraordinaire. En plus. Et parce que c'est une force extraordinaire, les évêques hésitent à nous les donner, et non seulement hésitent, mais refusent de nous les donner, parce qu'ils savent très bien que si plusieurs curés de Paris avaient la liberté d'agir comme nous le faisons nous-mêmes, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui dans la crise. Ça, c'est certain.
Ben oui, ça devrait plutôt les inciter à donner des paroisses, justement. Puisque ces mystères nous échappent, ne feignons pas d'en être les organisateurs. Alors, du temps des hommes d'Adarnie, cela s'appelait la paroisse Saint-Nicolas-Saint-Séverin. Aujourd'hui, que vous allez faire votre fête dans un entrepôt de tapis, s'agira-t-il de la paroisse Saint-Nicolas-Saint-Maclou ? Ça, c'est drôle, ça, peut-être.
Voilà. Non, je précise que ce n'est pas dans les locaux de Saint-Maclou.
En tout cas, cet auditeur vient de gagner. On va décerner une médaille du message le plus drôle, maintenant. Hein, ben voilà. Donc, si vous vous faites connaître, vous aurez droit à une médaille en chocolat. Merci, monsieur Lavé. À très bientôt.
Et merci infiniment.
Et puis, je donc rends la parole à mon excellent camarade Amish. Non, d'abord à Victoria, pardon.
Alors, plusieurs auditeurs se sont plaints que vous ayez dit beaucoup trop vite l'adresse de Pierre Guillaume. Alors, l'opération Vicaire, le rôle de Pie XII devant l'histoire, est un livre publié en 1965. Il est complété par un dossier sur la nouvelle opération en cours Amen de Costa Gavras.
Gavras,
ça coûte 16 euros net et vous aurez 40% sur une commande de 10 exemplaires. Adressé à Pierre Guillaume, boîte postale 98, 75 223, Paris Cedex 05. J'espère que vous avez eu le temps de noter, sans ça, demain matin, vous pourrez toujours le redemander. Et puis, je vous dis que dans le cadre de la campagne présidentielle, le MNR organise un grand dîner-débat avec Bruno Maigret sur le thème « Pour un pôle des libertés », proposition économique et sociale du MNR, le mardi 12 mars de 20h à 23h dans les salons de l'hôtel Novotel Vaugirard, 257 rue de Vaugirard dans le 15e. La participation est de 35 euros et les chèques de réservation sont à adresser avant le 4 mars à Françoise Monestier, 57 rue de Babylone, Paris 7e.
Et alors, dans un esprit œcuménique, tiens,
puisqu'on en parle. Œcuménique
J'ai envie de dire œcuménique, j'ai le droit. Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République, participera demain, jeudi 28 février 2002, au forum organisé par l'UNAPEI, U-N-A-P-E-I, à la salle de la Mutualité, dans le 5e arrondissement de Paris. Donc on n'en sort pas, c'est près de chez vous encore. Voilà, à quelle heure c'est toute la journée.
17h, il y a une conférence de presse.
Merci, mon cher Daniel. J'ai pas été trop au rasoir. Tu t'es pas trop barbé.
Le sens de l'humour, c'est toi quelque chose qui m'étonnera.
non pas semaine prochaine, mais à dans 15 jours, car la semaine prochaine, vous aurez la chance immense d'avoir 3 heures d'Amish pour vous tout seul.
À pouvoir se barber.
Bonne quinzaine, que Dieu nous garde.
Bien, bonsoir aux auditeurs qui nous retrouvent pour cette seconde partie du libre journal de mon compère Serge Bekelch, qui lui est barbé, donc ne supporte pas que je porte également la barbe. Alors je vais peut-être en faire le sacrifice. Qu'en pensez-vous, ma chère Jacqueline ?
Ah, écoutez, je trouve ça très bien.
Vous êtes la première dame à me dire que c'est très bien. Généralement, tout le monde me demande de sacrifier ça comme sacrifice de carême. Non,
c'est très bien.
Ah bon ?
Oui, oui.
Je vais peut-être m'en raser que la moitié, comme ça tout le monde sera content.
Non, mais
c'est salomonesque.
Hein, ça vous change ?
Oui, ça change un petit peu, oui. Enfin, c'était un petit peu l'idée aussi de ça. Voilà. Ma chère Jacqueline, tout se passe bien ?
Oui.
Bon, très bien, vous avez des tas de messages à nous. Déjà, vous en avez des paquets, c'est effrayant ce que vous avez
tout
à nous dire.
À l'heure.
Oui, on va trouver le temps. Alors ce soir, nous avons 3 invités. Le premier que je salue dans l'ordre où ils vont apparaître... Non, apparaître à l'écran, donc on dit être entendu sur nos ondes, c'est ça, hein ?
Absolument.
Oui. C'est Jean Boutonnet,
qui est président de la Société archéologique du Tarn et Garonne. C'est un historien. Je ne dis pas tout de suite de quoi il va nous parler, parce que je vais poser une petite question à ma camarade Jacqueline. Ne faites pas cette tête, Jacqueline. Bon. Et puis ensuite, nous avons notre bon camarade Guy Louis II, que vous venez déjà d'entendre.
Oui, bonsoir à tous. Oui.
Il trouve que ma barbe est...
Ah, mais moi j'aime bien.
D'un
j'aime
patriarche. Bien.
Oui. Hein, oh, patriarche, non.
Non, ça donne un petit côté...
Genre Noé, quoi. Non, ça fait un drôle de côté. Un drôle de côté. Bon, alors donc,
Guy Louis II... Non, non, mais j'aime bien ce
notre
nouveau
monsieur, style. Monsieur bande dessinée de Radio Courtoisie, scénariste, historien de la bande dessinée, tutti quanti, hein, travaillant d'ailleurs sur d'autres antennes.
Radio Notre-Dame.
Est-ce qu'on m'a dit? Oui. J'en m'envoyais extrêmement vexé.
Oh.
Qui reçoit ce soir? Eh bien, quelqu'un qu'on a beaucoup de bonheur à recevoir une seconde fois. Non, une deuxième fois, parce que j'espère qu'il y en a une troisième. Il faut que ici on cause le français. Bon. Mm-hmm. Donc, une troisième fois, c'est Laurent Bidot, qui nous avait déjà régalé d'un Padre Pio.
Padre Pio, voilà.
D'ailleurs, ça a lui a apporté chance au Padre Pio, parce que maintenant, il est saint. Oui. Vous savez qu'il est saint depuis...
Année, depuis voilà.
Bah oui, là, maintenant, là, ça vient d'être fait le 26 février.
Ah, voyez, je crois que c'est au mois de mai.
Ah, c'est fait.
Ah, c'est fait.
C'est fait. Oui, oui.
Ah, bonne nouvelle.
Alors, ça nous a valu, dans une feuille trotskiste du soir, que je nommerai pas, une expression extraordinaire pour annoncer cette canonisation. La machine vaticane à fabriquer des saints s'est emballée.
Sans commentaire.
Voilà, il paraît que c'est record tout ça, alors voilà, bon, voilà. C'est intéressant, hein.
Ouais.
Ben oui, ben, c'est comme ça, faut avoir des bonnes lectures. Moi, je vais dire une chose, alors donc, Laurent Bidot vient nous parler ce soir d'une autre bande dessinée à thème catholique et français,
oui.
Et très agréable pour les œnologues que nous sommes, la Grande Chartreuse.
Voilà.
En fait, c'est une magnifique bande dessinée sur l'histoire de la Grande Chartreuse et des Chartreux, des dessins super. Enfin, la couverture... Déjà, il faut mettre un pull, parce qu'on a un petit...
Ah oui, avec la neige. Hein.
C'est frais. Oui. C'est comme les chocolats qu'on mange l'hiver, vous savez, les chocolats, je sais pas comment ça s'appelle. Là. Bon, enfin, c'est pas dans le même massif montagneux. Hein.
Avec un petit verre de liqueur.
Avec un petit peu de
chocolat. Pour se réchauffer.
Voilà, oui, excellent. Alors, nous avons beaucoup, beaucoup de plaisir à vous recevoir. Juste, je rappelle une chose. Cher Jacqueline, tiens, je vais vous mettre à la question. Je vais vous mettre à la question. Quelle est la grande fête qui suit Pâques? Vers quel cheminon gaillardement, j'espère.
Grande fête qui suit Pâques.
Parlez bien près du micro,
oui,
n'ayez pas peur. Oui, Noël, avant Noël.
Non, je n'ai pas dit Noël, non, écoutez, non, quand même. Non, quand même.
Qu'est-ce
non.
qu'il y a avant Noël?
La Pentecôte. La Pentecôte.
Alors oui, il y a l'Ascension,
voilà,
et après l'Ascension, il y a la Pentecôte.
Voilà,
alors
pardon.
C'est au sujet de la Pentecôte,
je
merci de me faire la transition Jacqueline, c'est au sujet de la Pentecôte que je voudrais faire une petite annonce, parce que nos amis de Notre-Dame de Chrétienté me prie d'annoncer que le prochain pèlerinage de la Pentecôte, le grand pèlerinage de Paris à Chartres, ce sera d'ailleurs la 20e édition, comme bel anniversaire, hein, se déroulera donc pour le week-end de la Pentecôte. Ça vous évitera d'aller à la fête de Arlette Laguiller, qui se fait aussi la Pentecôte. Hein. Mais là, l'esprit des enfants, beaucoup, hein, c'est vrai. Enfin, bon.
C'est
donc,
un autre
les 18,
esprit.
19 et 20 mai, ce sera leur 20 ans. Alors, on va les recevoir comme ça plusieurs fois avant cette date pour qu'ils nous expliquent un petit peu le thème de cette année. Et ils attendent 20 000 pèlerins pour fêter leurs 20 ans. C'est un très très beau pèlerinage. Alors voilà, si vous souhaitez déjà prendre contact avec nos amis de Notre-Dame de Chrétienté, vous pouvez leur écrire 49 avenue de Paris, 78 000 Versailles, et vous pouvez aussi leur donner un petit coup de téléphone au 01 39 07 27 00. Mais nous ferons des petites émissions avec Jean-Marc Albert, avec Colel de Gestas, etc., tous nos bons camarades. Voilà. Alors la question que je voulais vous poser, ma chère Jacqueline...
Encore.
Oui, encore. Mais oui, c'est terrible. Mais parlez bien près du micro. Ça fait 40 ans que vous faites de la radio. Vous étiez déjà toute petite fille, que vous faisiez déjà des crochets. Vous parlez, c'est pas possible. Qu'est-ce que le mot de Cadillac vous évoque? Pas Cadillac, comme dirait Louis de Funès, mais Cadillac. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Oui, la voiture américaine,
belle voiture. Et pourquoi est-ce que les Américains...
Mais non, mais je pensais à autre chose, moi, parce que la voiture, c'est ce qui est venu
allez-y, mon cher Louis II, mon cher camarade.
C'est moi qui ai soufflé.
Alors, vous avez soufflé
quoi?
Oui,
non, mais j'y pensais avant de me souffler. Me souffliez.
Fliez.
Alors, vous avez soufflé quoi?
La voiture.
Il m'a fait le geste.
Oui. Bien. Oui. Et où sont fabriqués les Cadillacs? Les Cadillacs.
C'était des voitures américaines, donc en Amérique, mais...
Voilà, mais quelle est la capitale de l'automobile américaine?
alors là, vous me posez une colle d'étoile.
Ah bah dis donc, si on doit repasser le certificat d'études, hein, ça va être dur. Bon, alors, la capitale de l'industrie automobile américaine, qui est d'ailleurs la capitale mondiale, on peut dire, de l'automobile, c'est...
Détroit.
C'est Détroit.
Voilà. Heureusement que j'ai une souffleuse.
Ah, alors, vous avez quelqu'un qui vous a soufflé, c'est pas bien, on ne souffle pas. Eh bah oui, c'est
mais
Détroit.
Je ne triche pas, je dis
alors,
tout.
Alors, cette espèce de préambule, les auditeurs disent, mais qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Non, ça vous a fait un carême sec. Donc, on ne m'accuse pas de faire des choses apolitiques.
Parce que dans notre émission, je le disais.
Eh bah voilà, on va parler ce soir d'un personnage que l'histoire a oublié, à tort, puisque c'est un Français, c'est un homme du Sud-Ouest. C'est un Gascon, et ce personnage a fondé la ville de Détroit. Il a fondé la capitale de l'industrie automobile américaine. Ce n'était pas un ingénieur, il n'a pas inventé de voiture. C'est un homme qui a vécu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Et ce personnage a pris le nom, d'ailleurs, de La Motte Cadillac. Cadillac est un nom du Sud-Ouest. Même si les Américains l'écrivent avec deux L, nous, on aurait tendance à mettre un H après le L, pour que ça sonne mieux.
Cadillac. Même Cadillac.
Cadillac. Bien. Eh bien, ce monsieur Cadillac, qui a fondé la ville de Détroit, et qui a donné son nom à la plus prestigieuse des limousines américaines, notre ami Jean Boutonnet, président de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne. Et là, ce soir, il nous vient de Castelsarrasin, à quelques portée des scopettes du lieu de naissance de la Motte Cadillac, parce qu'il vient de rédiger, de faire paraître un livre qui raconte l'histoire de ce Gascon qui a fondé Détroit, publié à la librairie Guénégo. Alors, cher Jean Boutonnet,
oui,
comment avez-vous découvert ce personnage qui ne figure dans aucun dictionnaire français, même pas dans les grandes encyclopédies en plusieurs volumes dont je tairai le nom? Parce que comme ils nous payent pas, il n'y a pas de raison qu'on leur fasse de la publicité. Mais personne ne nous paye, c'est une radio. Il n'y a que les auditeurs qui payent. Et certains animateurs qui sont impayables d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de parler de ce personnage?
Oh ben, d'abord, je suis du pays où il a terminé sa vie, puisqu'il est mort en tant que gouverneur de Castelsarrasin en 1730. Et je suis de Castelsarrasin, historien de Castelsarrasin. Normalement, en feuilletant les archives, je devais tomber sur la Motte Cadillac, parce qu'il y a quand même laissé quelques petites traces, même si elles ne sont pas énormes. Mais surtout, ma démarche a été d'essayer de réhabiliter ce personnage. Alors, je ne sais pas si vous me donnez assez de temps pour voir...
Ah, compter. Vous avez tout votre temps, parce que ce personnage, on va le sortir de... Ça fait 272 ans,
oui,
depuis sa mort, on n'en parle pas. Il est mort et enterré, oui. On n'en parle pas. Et c'est un personnage quand même hallucinant, parce que votre livre, ce n'est pas une plaquette, hein, je précise. C'est un livre qui fait 340 pages, qui est le travail à la fois d'un historien et aussi d'un érudit, parce que c'est un livre extrêmement bien documenté, qui raconte l'histoire de ce personnage qui, bon, il s'appelle De la Motte Cadillac, mais en fait c'est un personnage d'extraction extrêmement
routinière. Oui, bien sûr. Il est allé dans un pays neuf, il a changé de
nom,
d'identité, mais ça se faisait beaucoup.
Oui.
Son père était, j'avais fait du droit, il était avocat en Parlement, en conséquence il considérait qu'il avait un peu droit à la particule, sans doute. Et puis, il faut dire qu'en arrivant dans un pays neuf, il vaut mieux avoir une particule que de ne rien avoir, surtout à cette époque-là.
Ça, c'est clair. Ça aide
encore. Et comme il n'avait pas d'argent, il n'avait que son intelligence et son érudition, et il a ajouté à tout cela la particule, et ça lui a réussi.
Alors, qu'est-ce qu'il a... sa jeunesse, est-ce qu'on peut parler un petit peu de sa jeunesse?
Sa jeunesse, on la connaît mal. Vous savez, il est né en 1658 et on a peu de documents là-dessus. On ne sait pas quelles études il a fait, mais enfin, il a fait des études classiques et des études importantes et sérieuses. Parce que lorsqu'on considère sa correspondance, qui est très volumineuse, surtout administrative, hélas, pas privée, c'est dommage. Quand on lit sa correspondance, on se rend compte que c'est un érudit et que... Il est largement au-dessus de tous ses contemporains en ce qui concerne l'écriture, le maniement de la phrase, les connaissances de la Bible notamment. Les jésuites le redoutaient farouchement, la Motte Cadillac, parce qu'il a eu des problèmes avec les jésuites.
Qui n'a pas eu de problème avec les jésuites au XVIIe siècle et au XVIIIe, vous savez,
mais on redoutait beaucoup son érudition et ses connaissances. Il avait toujours un argument biblique à opposer à un autre argument biblique.
Très bien, c'est toujours extrêmement...
En fait, ce n'est pas l'essentiel de sa vie. Non, ce qui est intéressant, c'est justement son petit côté gascon dans cette affaire.
Gascon, c'est quoi Gascon? C'est têtu, c'est...
Ah oui, c'est têtu, vous savez, on disait que quand on voulait semer quelque chose, il fallait planter un Gascon. C'est Henri IV qui disait ça. Mais c'est vrai qu'il était têtu, peut-être un peu orgueilleux aussi de ses connaissances. Mais dans ce pays où la culture était quand même pas très développée, même au niveau des hautes sphères administratives, c'était un personnage qui, évidemment, se sentait un peu au-dessus des autres et qui a essayé de faire valoir ses idées. Voilà. Alors, ses idées sont assez originales dans la mesure où on les connaît mal d'abord, et surtout dans la mesure où il avait... Il voulait essayer de réaliser une autre façon de colonisation, si vous voulez, de coloniser.
Alors, ça, n'anticipons pas, parce qu'on va essayer quand même, parce que comment ce jeune homme, ce jeune Gascon, il monte à Paris, comment...
Si on savait tout ça, ce serait très simple. Il doit monter à Paris. Parce qu'on ne sait absolument rien. Il est apparu aux États-Unis, enfin, en Nouvelle-France, en 1682, sans qu'on sache d'où il vient. Et d'ailleurs, il faut rappeler que lorsque les Américains ont voulu fêter le bicentenaire, c'est-à-dire en 1901, le bicentenaire de la fondation de Détroit, ils n'avaient pas encore trouvé l'origine de la mode Cadillac, parce qu'il y a eu de mauvaises lectures de documents. Notamment, il y avait un petit village qui s'appelle Le Moutet, qui est à côté de son lieu de naissance, qui avait été traduit par Semontel, par les gens qui ne connaissaient pas. Mmh. Et donc, on était embarqué dans de mauvaises directions pour le trouver. Il a fallu que quelqu'un s'aperçoive qu'on pouvait traduire par le Moutet, qu'on aille chercher près de Saint-Nicolas de la Grave, qui comptait ce hameau parmi ses possessions, pour qu'on arrive à trouver l'origine de la mode Cadillac, qui s'appelait, en plus, de notre nom, puisqu'il était Antoine Lomé. Voilà. C'est tout à fait difficile de remonter dans ces conditions, et je comprends très bien que mes prédécesseurs historiens se soient
cassés les dents
là-dessus, ouais. D'autant que c'était une époque, la fin du 19e, où toutes les archives n'étaient encore pas classées et pas encore connues. D'ailleurs, la grande découverte qui concerne la mode Cadillac ne vient pas des archives nationales, ni de la bibliothèque nationale, mais ça vient des archives de la marine, parce que les colonies jadis dépendait du département de la marine. Et c'est là qu'on a trouvé la majorité de sa correspondance, qui est de 3000 lettres, à peu près. C'est quelque chose de considérable. Parfois, d'ailleurs, et très souvent même, trop souvent à mon goût, des lettres de contestation de son action.
C'est inévitable. Alors, ce personnage que vous allez nous faire découvrir, qu'on va pouvoir découvrir encore mieux en se procurant le livre qui a été édité à la librairie Guénégaud à Paris, on n'en possède même pas de portrait.
Ah, pas du tout. On l'a cherché. Les Américains l'ont cherché. Ils ont même cherché son squelette. Là aussi, il y aurait des détails tout à fait intéressants. Parce qu'on a trouvé des squelettes à l'endroit où il avait été enterré. Il était enterré dans un ancien couvent des Carmes de Cassé-Sarrazin. Et sur ce couvent, on a creusé... construit une salle des fêtes. Actuellement, nous dansons
sur les restes de la mode Cadillac.
Oui. On ne manque pas, quand on le collait, de le signaler, d'ailleurs. mais il faut dire qu'on a trouvé un squelette. On a dit forcément que c'était peut-être celui de la mode Cadillac. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des enfants qui sont allés tripoter dans cette tombe. Alors, on n'a pas pu reconnaître les... Mais il y a tout un tas de catastrophes qui l'ont rejeté sans arrêt vers l'incognito,
vers l'oubli.
Et c'est pour ça que je me suis accroché. Vous me demandez pourquoi, mais c'est cette accumulation de désagréments qui le concerne qui m'a poussé à ça. Je pourrais y ajouter, si vous voulez bien... Même si je raccourcis, c'est pas grave, mais puisque nous sommes dans ce domaine, je peux y ajouter ce qui s'est passé au niveau de sa biographie. Lorsqu'on a fait la connaissance de la mode Cadillac, qu'on a voulu en parler, ce sont les Américains qui s'en sont emparés. Ils voulaient célébrer dignement la fondation de leur ville. Et pour le célébrer dignement, ils avaient besoin d'un personnage très digne et tout à fait dans l'esprit du gentilhomme français. Donc ils en ont fait un être quasiment parfait.
Un saint de vitrail,
tout à fait. Parce que nous n'avions pas tous les documents. On n'avait que quelques documents. Et en plus, en triant, on trouvait de très bonnes choses dans les documents concernant la mode Cadillac. Et ce qui s'est passé, on a donc fêté le bicentenaire avec éclat. C'est de là, d'ailleurs, qu'on a tiré la voiture. On a donné le nom de la voiture pour célébrer cet événement. de la fondation et aussi de la cérémonie du bicentenaire, qui c'était la première fois qu'on faisait ça.
Donc 1901, première Cadillac sortant des chaînes.
Non, pas tout à fait, parce que c'est dans les années suivantes, 1904, je crois. Hein. C'est une petite entreprise qui avait choisi ce nom, puis ensuite ça va être pris par plus gros.
C'est General Motors, qui fait les Cadillac.
Mais beaucoup plus tardivement. Qui va en faire alors la plus belle voiture du monde. Hein, voilà.
C'est clair.
Mais ce qui est intéressant dans son histoire, la Motte Cadillac, c'est que, ayant été placée sur un piédestal tout à fait exceptionnel, lorsque les historiens canadiens ou américains vont se pencher vraiment sur les archives, lorsqu'on va découvrir de nouvelles archives, on va s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses dans la Motte Cadillac. Et comme il se passe souvent, le pendule est allé d'un côté à l'autre.
On a tordu le bâton dans le sens.
On l'a vraiment descendu en flamme, si vous permettez cette expression.
Oui. Alors donc, il faut rétablir un petit peu la vérité dans tout ce qu'elle a de...
Mais en toute justice. Parce qu'il y a eu quelques tentatives dans les années 1970, par là, d'historiens qui ont essayé de composer entre ces deux personnages, l'excellent et le fief et coquin, comme on l'a traité d'ailleurs. C'est un historien américain qui l'a traité de fief et coquin. Et c'est comme ça qu'il est dans les biographies ordinaires. Mais entre ces deux personnages, à mon avis, il n'y a pas de place pour le pardon ou quoi que ce soit. C'est simplement la Motte Cadillac, qui est un homme comme les autres, qui a vécu sa vie, qui avait des idées qui n'ont pas été acceptées par tout le monde parce qu'on les craignait, qui a donc été rejeté. Parfois, on a monté des cabales contre lui. Il en a payé les frais. On l'a accusé de richesse, il était pauvre comme Job quand il était...
Ouais, on le voit, parce que là, vous donnez l'état de la succession.
Ah oui,
il y a un tableau.
Ça, c'est tout à fait impressionnant.
Il n'y a pas de quoi s'acheter une Cadillac, je vous le dis tout de suite.
Il avait un pauvre carrosse avec les sièges défoncés et le carreau cassé. Et on ne sait même pas s'il y avait un cheval.
S'il y avait un cheval pour le tirer, peut-être lui-même tirer avec son carrosse.
On n'a pas trouvé le cheval.
C'est incroyable. Alors, il arrive aux États-Unis, on ne sait pas trop ce qui se passe avant.
On ne sait pas comment, ni pourquoi.
On connaît un petit peu la famille.
Pourquoi il y est allé.
Pourquoi il y est allé. Oh, peut-être c'était le cadet de la famille Lomé.
C'était le cadet.
Les cadets, généralement, avaient l'esprit aventureux en Gascogne.
Ils partaient à l'armée.
Les cadets de Gascogne.
Oui. Ils faisaient.
Mon cher camarade Olivier.
Ou la robe, ou l'épée.
Et là, évidemment, s'ouvre quelque chose d'intéressant. Il y a la Nouvelle-France.
Hein. Ah, c'est ça, tout à fait.
Alors, la Nouvelle-France.
Mais là, il arrive en Acadie.
Alors, donc, il arrive
dans il n'a pas de chance en plus. Il va choisir une partie de la colonie qui est la plus éloignée de la partie centrale, enfin, je dis ça, mais c'est de la partie la plus développée, le long du Saint-Laurent. Et il va prendre ça, et ça va être vite raflé par les Anglais, cette partie. Donc il a hérité d'une seigneurie qui va lui être prise très rapidement. Une seigneurie, d'ailleurs, que Marguerite d'Yourcenar possédait. Elle habitait à Mont-Désert, qui était la propriété même, la seigneurie de la Motte Cadillac.
Incroyable.
Oh, c'est la Motte Cadillac qui figure même dans Manon Lescaut. Je pourrais vous en raconter beaucoup, mais j'ai pas le temps.
Dans Manon Lescaut aussi.
Ah oui, dans Manon Lescaut. Le gouverneur de la Louisiane à l'époque de l'affaire de la Manon Lescaut, c'est la Motte Cadillac que j'ai trouvée. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Je reproduis les lettres qui prouvent que c'est la même affaire que celle que nous raconte l'abbé Prévost a eu lieu sous la Motte Cadillac. C'est merveilleux.
C'est extraordinaire.
Une belle bande dessinée à faire.
Mon cher camarade, on va donner des traits à Laurent Didot. C'est inconnu qui va devenir extrêmement célèbre dès ce soir.
Effectivement, plein d'images là.
C'est un personnage. Vous savez, c'est un personnage pour lequel on attrape vite la passion. On peut être tout à fait contre, tout à fait pour, mais en réalité, on ne peut pas rester indifférent face à la Motte Cadillac. C'est un destin extraordinaire.
Alors, comment ce jeune homme, enfin je dirais, oui, ce jeune homme, il arrive en Amérique, il a quoi? Il a 30,
non,
il a moins de 30 ans, il a
24 ans.
Je suppose, sans un sou en poche, ou alors,
sans un sou en poche.
Sachant qu'il arrive là-bas à 24 ans, il n'a quitté ses parents qu'à 16 ou 18 ans, parce qu'il était peu probable que les parents laissent un jeune homme partir
cette époque-là, les enfants faisaient un peu n'importe quoi, quand même.
À supposer qu'il soit passé par Paris, et qu'il se soit embarqué donc à Brest,
ou à La Rochelle. Oui, ou la Hollande, s'il a été poursuivi pour un crime quelconque, on ne sait pas.
Ah, ça, on ne sait pas, on n'a pas...
Mais c'est que nous avons un texte d'un gouverneur de l'Acadie, justement, où il est arrivé en début, qui se dit, mais ce Cadillac venu en Nouvelle-France pour je ne sais quel crime, dit-il. écrit-il. Ouais. Mais il faut être prudent avec le sens, et garder le sens des mots. À l'époque, crime, ça peut être...
Un larcin.
Ça peut être même ne pas aller communier pour une cérémonie religieuse importante. Oui, donc on ne peut pas... Et alors, il y a énormément d'historiens qui se sont dirigés dans cette direction et qui ont pu
au sens
s'imaginer qu'il avait tué quelqu'un avant de partir, comme on aurait pu parler de passion amoureuse qui l'a poussé, etc., etc.
Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il débarque aux
États-Unis ? On
ne sait pas.
Il arrive à Port-Royal, ça on connaît. Il arrive à Port-Royal, mais d'où on ne
sait pas. Alors Port-Royal, ça se trouve.
Par contre, c'est en Acadie. C'est au bord d'une baie qui s'appelle la baie des Français. C'est juste au-dessus de Boston, New York, qui s'appelait Manhattan à l'époque. Mm-hmm. Mais enfin, quand je dis juste, c'est quand même assez loin. C'est pas la bonne partie de la côte, c'est une côte face à l'Atlantique, c'est très, très venteux, les terres sont difficiles. C'est un port. Mais c'est un port où se trouvent des bateaux qui se font la guerre. C'est l'époque où on a quelques illimités avec les Anglais.
Ça s'est produit une certaine nombre
d'autres. Dans l'histoire, on en retrouve d'autres exemples.
Et ça va continuer, d'ailleurs. Bon.
Ça risque
alors,
de
comment ce jeune homme qui arrive là-bas, il est, on suppose, sans le sou.
On dit qu'il a trafiqué.
Il faut bien vivre.
Il a vendu de l'alcool, peut-être.
Aux Indiens.
Bien sûr.
Sur place, vraisemblable. Oui. Voilà.
En tout cas, peu de temps après, il prétend connaître parfaitement les zones anglaises et hollandaises qui sont proches. Tout ce qui est Boston, Albany, Manhattan, c'est-à-dire New York. Oui. Et ça tombe bien, parce que justement, la France est en train de mettre en place un vaste projet d'attaque pour se débarrasser de ces Anglais qui nous gênent beaucoup et qui nous prennent beaucoup de tribus indiennes. On est en train de préparer une attaque par mer et par terre, mais un gros coup. Et alors, on a besoin de gens qui connaissent bien la région. Et lui dit, moi, je connais. Il l'avait dit avant. Alors on va s'en servir, on l'embarque sur un bateau. Mais vous savez, les bateaux n'ont pas de moteur. Le vent souffle parfois dans les directions qu'on ne souhaiterait pas. Il est parti de là-bas pour visiter les côtes. Il visite les côtes, mais quand le bateau veut rentrer, il se retrouve en France.
Alors c'est son premier retour.
Alors, c'est son premier voyage au retour non volontaire. Il en fera d'autres. Hein. Que ça arrive.
On doit avoir un petit peu plus de traces de lui. On commence un petit peu à suivre mieux. Retour en France, qu'est-ce qu'il fait
ce monsieur qu'il a accusé de quelques crimes a porté plainte parce qu'à Port-Royal, il a quand même joué un peu au gros bras, il a dû se faire remarquer. Il contestait un peu tout, l'Église et le pouvoir. Mm-hmm. Donc, il a envoyé le gouverneur, qui s'appelait Meneval, et a envoyé des rapports au ministre. Et quand la Motte Cadillac arrive avec ses cartes et tout ça au ministère, on sait déjà que c'est un drôle de garçon, qu'il n'est pas... Mais il y a un secrétaire qui note dans les marges, et ça on a les textes, en disant que peut-être que si on lui fait une petite remontrance, tout simplement, ce garçon me paraît assez futé pour rendre service. Donc on ne fait pas de... Il est puni par rien. Au contraire, même, il va rencontrer le ministre. Et comme c'est un garçon qui a énormément de qualités, il aura vite fait de faire retourner la veste à tout le monde et de devenir sympathique et peut-être un garçon à aider. Donc il va gagner un grade. Alors ça, c'est fabuleux parce qu'il n'en avait aucun. Okay. Il se retrouve lieutenant.
Ça, c'est en quelle année alors qu'il se retrouve pour la première
fois? Ça, c'est les années 1690-91.
Et alors, il repart de nouveau.
Et quand il arrive là-bas, il n'a plus la seigneurie qu'il avait obtenue. J'ai oublié de vous dire qu'à tout temps, il avait épousé une jeune fille de là-bas. Ce qui est importante.
Locale.
Oui, une Française, mais de plusieurs générations d'installés.
Déjà installés.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il fait au cours de son deuxième séjour américain?
Mais là, il va se rapatrier sur Québec, puisqu'il n'a plus de place à Port-Royal. Et là, il va rentrer dans les services administratifs et les allées du pouvoir, puisqu'il est très ami avec il va devenir un des amis du nouveau gouverneur qui est Frontenac.
Frontenac, il est dans le château
Frontenac. Cadillac, ça sonne très bien. Il a changé, et j'ai oublié de vous dire qu'il avait changé de nom en se mariant. Mais je vais oublier énormément de choses tout autour de cet entretien parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Alors, de cette date de son second voyage aux Amériques, à la fondation de Détroit, qu'est-ce qui va se passer à 1720?
Oui, il se passe un tas de choses. D'abord, c'est la montée de la Motte Cadillac en puissance, disons. Frontenac le trouve très bon, il trouve qu'il a des relations avec les Indiens tout à fait excellentes, c'est normal, parce qu'il est gascon, qu'il parle avec les mains. J'exagère, mais c'est vrai qu'il emploie, énormément d'images, et les Indiens parlent beaucoup avec des images. Oui. Ses lettres sont truffées d'images extraordinaires. C'est lui qui dit « Oh, je serai gouverneur du... » à l'âge dont on fait les papes. Vous voyez, c'est plein de petites astuces comme ça, d'humour gascon. Et là, il va devenir le commandant de tous les postes de traite, parce qu'il y avait la colonie le long du Saint-Laurent, et puis, dans les territoires mal connus et s'éloignés, surtout le long des Grands Lacs, il y avait des postes que l'on créait avec une garnison, où on venait faire du trafic. On vendait des armes, des fourrures, on vendait de la poudre, on vendait un tas de choses, on achetait surtout...
La loutre, la fameuse loutre, voilà, qui servait à faire... Le castor, pour faire les feutres.
Le castor. D'ailleurs, donc il devient commandant d'un de ces postes, et de tous les autres postes d'ailleurs, et c'est là qu'il va avoir l'idée de créer un autre poste à un autre endroit, un autre détroit, parce que le poste dans lequel il est nommé la première fois, qui s'appelle Michilimackinac, est aussi un détroit entre le lac, je ne sais plus, mais entre l'un des deux lacs,
Verrier, les cinq, entre les grands lacs.
C'est Ontario. Mais celui-là, Michilimackinac, est beaucoup plus haut, c'est le Michigan et le supérieur, je pense. Mm. Si je me trompe, vous trouverez les corrections dans mon ouvrage. Dans le livre. Et donc là, il va avoir l'idée de créer un autre poste, un autre détroit, plus proche de la colonie. Seulement ça va soulever tout un tas de problèmes. Alors, il revient ensuite, on ferme les postes parce que tout le monde, les jésuites s'opposent à ces postes de traite parce qu'on s'y conduit mal. On boit trop d'alcool, il y a de la traite de toutes sortes. Et donc, le roi décide de supprimer les postes. Alors, on supprime les postes, on enferme la plupart, d'ailleurs. Donc, il rentre à Québec, il reste là, et puis il décide d'aller en France pour présenter son projet au roi. Frontenac est ravi de l'envoyer là-bas.
Alors, en quoi consiste son projet, exactement ?
Son projet, c'est de créer donc un poste nouveau sur un détroit, mais pas un poste uniquement de soldats, au contraire même, c'est pas un poste de garnison, c'est une colonie. Il veut y aller avec des laboureurs, avec des artisans, avec des femmes et des enfants. Et ça, c'est la grande découverte, parce que ce détroit, malgré tout ce qu'on va faire contre lui, va marcher, parce que les Indiens n'ont pas confiance tellement dans les relations avec les Français, pas plus qu'avec les Anglais. Mais
plutôt moins que les Anglais qu'avec les Français.
Non, mais les Français étaient très, très... très appréciés par les Indiens, parce qu'ils étaient très proches d'eux, beaucoup plus que les Anglais. On ne prend pas le thé à 5 heures. Oui. Enfin, pas encore, je veux dire. Pas encore. Je ne sais plus où j'en suis.
Donc son projet, c'est de créer une colonie.
Avec femme et enfants. Et en effet, c'est ce qui va bien marcher, parce qu'il va y aller avec sa femme, et il va y faire des enfants qui seront nés là-bas. Donc ça marchera. Mais alors, le grand problème, parce qu'il y a plein de problèmes dans l'histoire de la mode Cadillac, et je vais encore en ajouter au moins deux qui sont importants, c'est qu'il va en France pour présenter son projet, et quand il arrive là-bas, il apprend que le Frontenac, son gouverneur favori, venait de mourir. Donc on est en train de nommer un autre gouverneur, qui va s'appeler Callière. Quand il va rentrer, le roi va lui donner l'autorisation de bâtir ce fort. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais il faut penser que le roi vient, en 2 ans, de faire des politiques tout à fait différentes. Et il a fermé les comptoirs, si on peut dire, les forts. Et puis maintenant, on autorise un personnage à en ouvrir un nouveau. Alors ça soulève un tollé complet. Et ça met contre la mode Cadillac et contre le projet pratiquement tout le monde. Et les commerçants, et les administratifs, et les jésuites. Parce qu'il va empiéter sur les domaines de tout le monde. En conséquence, il y a une opposition fabuleuse. Il va être obligé de faire 2 voyages en France pour essayer d'obtenir chaque fois de plus en plus l'appui du roi.
Et c'est pas les voyages.
On va l'imposer. Le roi va imposer la création de Détroit, qu'il va faire. Et là encore, il n'aura pas de chance, parce que le gouverneur Callière, le nouveau gouverneur, était capable de le soutenir. C'était un militaire, peut-être pas très futé, mais très militaire, c'est-à-dire très respectueux des ordres qu'il recevait. Jugulaire, tout à fait. Donc, qui aurait certainement favorisé le Détroit. Mais pendant qu'il est au Détroit, justement, les premières années, Callière va mourir et va être remplacé par un autre personnage qui s'appelle Vaudreuil et qui est déjà un de ses ennemis depuis quelques années. Parce que c'était un personnage, ce Vaudreuil, qui avait beaucoup d'ambition et que la montée de la Motte Cadillac inquiétait beaucoup. Donc ce Vaudreuil, qui hélas va rester, hélas, si on peut dire, va rester gouverneur pendant 25 ans, va gêner la Motte Cadillac jusqu'à la fin, va pousser à la roue, malgré tout ce qu'il va pouvoir faire, la Motte Cadillac n'arrivera pas à débarrasser la cour des ennuis que lui procure Vaudreuil. Il finira, en 1710, par être déchu de son titre de gouverneur de Détroit. On va le nommer gouverneur de la Louisiane. Alors, comme ça, de nos jours, ça paraît une promotion extraordinaire.
À l'époque,
mais c'est tout à fait extraordinaire, en effet, mais pas dans le sens que vous imaginez, parce que la Louisiane, qui a été découverte il y a déjà 10 ans, quand la Motte Cadillac y arrivera, après un passage à Paris, où il va essayer de négocier, parce qu'il est très doué pour ça, quand il va arriver en Louisiane, il y a 10 ans qu'on n'a pas vu un bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne là-bas, les soldats sont répartis partout. Et il y a des Français qui sont installés là, qui appartiennent à la famille des Lemoines, Bienville notamment, qui sont installés là depuis le début, et qui se sont crus et qui ont toujours pensé qu'ils étaient des chefs. En conséquence, quand il arrive en tant que gouverneur, il n'est pas reconnu comme chef tellement. D'autant que ces hommes qui sont là depuis longtemps, sur le terrain, ont acquis...
Des mauvaises habitudes.
Non, mais en plus, ils ont acquis ce qui est très important, c'est l'amitié des tribus indiennes du coin. Et la Motte Cadillac ne sera jamais acceptée. Donc il va rentrer. Quand il rentre en France, et nous sommes là en 1714-15...
Le roi meurt.
Le roi est mort, c'est la régence.
C'est la régence, ça facilite pas les...
Il arrive tranquillement, donc il a été déchu de la Louisiane en 14, il arrive en 16. Il tombe en pleine affaire extraordinaire, c'est celle du banquier Lowe, l'Écossais, qui vient de nous fabriquer des billets, dont nous utilisons aujourd'hui quelques spécimens.
Les descendants.
Quelques spécimens.
Souhaitons que ceci n'est pas là.
Mais ce qui est catastrophique pour lui, pour la Motte Cadillac, c'est que ce banquier est en train de monter une opération financière, comme nous en connaissons hélas encore quelques-unes, à propos de la compagnie des Indes, qui va créer la compagnie de la Louisiane pour l'exploitation de la Louisiane. Or, la Motte Cadillac, depuis qu'il est là-bas, n'arrête pas d'envoyer des rapports en disant que c'est une terre pourrie, qu'il n'y a rien à y faire, il y a des cailloux, des coquillages, qu'il y fait une chaleur à crever, et qu'on n'en sortira jamais rien. Alors donc, il arrive à Paris, et il se trouve... face à une publicité mensongère qu'il n'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ben, comme il est très ami avec une comtesse douairière Conti, qui est une... Elle est toujours dans tous les complots aristocratiques de l'époque, c'est le régent qui règne à ce moment-là, il va se produire dans plusieurs salons pour dire son idée. Surtout, n'achetez pas les actions de... Et au bout d'un mois, il est à la Bastille. Au bout d'un mois, il est à la Bastille. Il ne va pas y rester longtemps parce qu'il est âgé et qu'il y fait froid. Il a les rhumatismes qui lui font mal. On a un peu pitié de lui. Donc, on va le relâcher. Enfin, les actions seront vendues.
La Bastille, ce n'était pas Cayenne non plus. Alors, non. Il faut que nous nous identifions, ma chère Jacqueline. Rappelez que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie.
Et que
nous
avons... vous recevez voilà. Jean Boutonnet.
Oui. Pour son livre.
Pour son livre, La Motte Cadillac, le Gascon qui fonda Détroit.
Voilà. Eh ben, c'est pas mal, mais vous n'avez pas le... Alors, il y a
alors,
des messages.
Alors, j'ai quelques messages. Oui, le château de Cadillac, c'est près de Bordeaux. Il a servi de modèle à l'architecture de la Maison Blanche à Washington, comme beaucoup de châteaux français qui ont servi de modèle à l'étranger.
Mais quel rapport avec notre Cadillac ?
Strictement aucun.
Aucun.
C'est dommage pour les habitants de Cadillac qui ont toujours pensé que ce serait très bien. En plus, ce serait pas mal parce que le château de Cadillac est
joli.
Un monument excessivement beau. Mais hélas, Cadillac n'a rien à voir avec ça.
C'est une auditrice
Le nom de Cadillac est un nom très employé dans notre région. Il y a beaucoup de familles qui s'appellent Cadillac. Il a dû inventer ce nom. Puis ça sonne bien, c'est Gascon.
Oui, voilà, exactement.
Ouais, ça fait Cadillac, c'est bien.
C'est une auditrice qui est aussi dans le Tarn, à peine. Ben,
voilà, elle nous écoute. Là, il y a une auditrice aussi, s'il vous plaît. Les dames d'abord, s'il vous plaît. Même quand c'est les messieurs qui en cause. Oh, quand même. Alors, il y a une auditrice qui nous dit que le gouverneur Vaudreuil, fameux Vaudreuil, a été également particulièrement odieux avec Montcalm.
Oh, il a été audié avec beaucoup de monde, d'ailleurs. Et tout ce qu'on a reproché à la Motte, il l'a fait lui-même.
Et lui a facilité, comme dit cet auditeur, c'est avec juste raison, d'ailleurs, il a beaucoup facilité les choses aux Anglais. C'est quand même
le comble. Ah, c'est vrai, il paraît que c'est tout à fait vrai. Vous savez, il était de Revel, il était de notre région.
Il était aussi, décidément.
Il était de Revel, donc il y a peut-être cette antinomie aussi, entre les deux, entre la Motte Cadillac et Vaudreuil. Alors que Vaudreuil était le parrain de ses enfants. Faut le savoir quand même. Donc il y a eu un moment où la Motte Cadillac a été tout à fait en haut du pouvoir parce que quand son fils est né, Vaudreuil était son parrain de ce petit et la femme de l'intendant, qui étaient les deux hauts personnages de l'époque, était la marraine. Et puis ça s'est gâté.
À propos de Montcalm, je voulais dire que nos cousins canadiens, québécois, viennent de faire des obsèques nationales au reste mortuaire de Montcalm. Ils l'ont sorti donc de, je crois qu'il était chez les Ursulines, l'église de je ne sais plus quoi, et ils lui ont fait un mausolée spécial. Alors il y a eu toute une grande procession avec des photos, mais tout le monde en habille de tous les régiments qu'a couvert. C'est magnifique, j'ai vu des photos couleurs. Et ça, on ne nous montre pas ça chez nous à la télé. Sang de bois, ça nous intéresse quand même.
Mais le problème pour la Motte Cadillac, c'est qu'à Détroit, la municipalité est noire. Il y a beaucoup d'immigrés, il y a 70% d'immigrés. Donc, la Motte Cadillac, qu'on ne connaît pas.
On s'en fiche, quoi.
Vous savez, le grand... Si, maintenant, ils ont fait une statue. Ils viennent là, pour le troisième centenaire de la ville, ils ont mis la Motte Cadillac en pied, qui a un petit côté mousquetaire. Il est en train de planter l'épée dans quelque chose, je crois. Ça ne correspond pas tout à fait à l'image que j'en ai.
C'est plutôt l'administrateur.
Oui, c'est ça, c'est plutôt l'administrateur qu'autre chose. Mais le grand monument de Détroit, il faut savoir... C'est le bras de Joey Louis, quand même.
D'accord.
Il y a un bras de 20 mètres sur je sais pas combien de long. Les
Américains font les choses.
Tandis qu'en face, il y a Windsor, qui est une petite colonie française importante, qui sont beaucoup plus intéressés par la Motte Cadillac qu'à Détroit. Ça, c'est clair.
Un auditeur, Cadillac était-il gascon? La Gascogne est à gauche de la Garonne. Quand on connaît le dialecte du Tarn et Garonne, le provençal, on comprend difficilement le gascon. C'est un signé un notablanais.
Alors, oui, il est de Gascogne, parce que Castelsarrasin est sur la rive droite.
Montauban, il est de Montauban.
Ah ben dis donc.
Montalbanais.
Oui, Castelsarrasin est sur la rive droite de la Garonne, mais l'endroit où il est né, Saint-Nicolas-de-la-Grave, est sur la rive gauche.
Rive gauche.
Donc il parlait le gascon, mais c'est peut-être ça qui l'a aidé justement à parler l'indien, parce qu'après tout, il a peut-être parlé cette fameuse langue algonquine qui permettait de communiquer avec toutes les tribus à peu près, quoi. Plus les gestes, évidemment.
Une auditrice, Marguerite Yourcenar, est le pseudonyme de Marguerite de Crayancourt. A-t-elle une parenté avec la Motte Cadillac?
Non, strictement aucune. C'est le hasard qui fait qu'elle a acheté une propriété sur l'île de Mont-Désert qui a été une appartenance...
C'est dans l'état du Maine, non? C'est pas dans l'état du Maine?
C'est dans le Maine, c'est ça.
D'accord, dans le Maine, qui d'ailleurs a un nom aussi d'origine française, me semble-t-il. Hein, le Maine, il faut prononcer la française. Il ne faut pas dire Detroit, comme j'entends les gens qui confondent Destroy et Detroit. Non, c'est Détroit, monsieur.
Mais vous savez, vous savez que ce qui est extraordinaire au-delà de la Motte, c'est que sa petite fille va négocier avec Lafayette quand l'Amérique va être libre, va demander qu'on lui rende les territoires qui lui appartenaient. On va rendre les territoires. Ils vont donc quitter Castelsarrasin. Ils étaient pauvres comme chose, déjà. Ils vont arriver là-bas. On va leur rendre Mont-Désert et la seigneurie qu'avait la Motte Cadillac. Ils ne parlaient pas anglais. Ils n'étaient pas des cultivateurs. Ces terres étaient déjà données et vendues, déjà données et exploitées par des Anglais. Ils vont avoir toutes les peines du monde à faire reconnaître leurs droits sur ces terres-là. On va les obliger à devenir américains en titre pour pouvoir mieux défendre leur propriété. Quand ils vont l'avoir, ils vont se rendre compte très vite qu'ils ne peuvent pas le gérer. Ils vont donc le donner en vente à des gens à qui vont faire confiance, qui vont aller vendre les terres morceau par morceau dans les cafés, dans les endroits où on rencontre des gens. Et en définitive, ils vont tout perdre. Et nous avons une lettre de cette petite fille qui s'appelait Grégoire, une de Grégoire, qui date de 1790 et qui écrivait au président des États-Unis pour demander une aide afin de payer le voyage pour rentrer en France. Et ils ne sont certainement jamais rentrés.
Tant mieux peut-être.
Parce qu'il y avait la révolution. Parce qu'il y avait la révolution. Mais par contre, on les a perdus. J'ai essayé de les retrouver. Il y a quelques Américains qui ont travaillé dans le census, c'est-à-dire le nom des gens, vous savez.
Oui, oui, oui. Oui.
Le recensement de Détroit. Ouais. On ne trouve pas de Grégoire. C'était pas ses enfants, mais c'était ses petits cousins qu'ils avaient amenés quand ils étaient partis. Par contre, il y a des Grégory, alors je me demande si on n'a pas changé en américanisant. Mais vous savez, c'est une histoire tout à fait fabuleuse, parce que cette petite fille, elle y était en 1782, c'est-à-dire 100 ans après, juste, son grand-père. Non, c'est une affaire tout à fait.
On connaît des descendants en France, il n'y a plus de descendants.
Il
n'y
en a pas, il y a des Pouzargues. Il y a une fille de la Motte Cadillac qui a épousé un Pouzargue, lequel a eu de nombreux enfants, et différentes branches d'ailleurs.
Eh bien, il faut en appeler à tous nos amis généalogistes, parce que là, franchement, il y a des choses à rechercher.
Des personnages importants. Ah oui, oui, mais il y a beaucoup. Mais la famille Pouzargue a été faite, la généalogie a été faite.
Mais là, sur le côté américain, là, il y a quelque chose d'intéressant. Encore un message
d'un auditeur. Il y a une colline dans l'état du Maine, colline située au bord de l'océan Atlantique, où une inscription indique que c'est le lieu où la Motte Cadillac, baptisé Comte, a débarqué aux États-Unis. Monsieur Boutonnet, est-il au courant de ce fait ?
Oui, je sais qu'il y a ce monument.
Signé Robert Lozada.
Oui, oui, je pense que je connais. Mais le fait qu'on l'ait traité de Comte me gêne déjà beaucoup. Oui. Et en effet, ils ont tendance un peu à trop en faire, par rapport à la vérité historique. Je ne suis pas contre les romans ou contre l'invention, parce que c'est vrai que...
Non, mais c'est une chose, voilà. Une chose, c'est l'histoire, une chose, c'est le roman historique. Voilà. C'est deux
genres différents. Et mon ouvrage, si vous me permettez, que j'en parle aussi...
Allez, c'est pas un roman historique.
C'est plutôt une accumulation de documents historiques.
C'est clair, c'est clair.
Et un travail de recherche et de recoupement de lecture. Beaucoup de travail de lecture et de recoupement pour essayer de trouver tout ce qui peut être dit sur ce travail.
Encore une question, pourriez-vous préciser, si possible, avec jour et mois, sa date de décès? Est-il inhumé dans une église ou une chapelle? Laquelle?
Oui, on l'a fait. Il est né, alors le jour, je m'excuse, je ne sais pas, mais je sais que c'est au mois d'octobre 1730 et qu'il a été enterré dans le couvent des Carmes de Castelsarrasin, qui est actuellement la salle des fêtes, d'ailleurs.
Voilà, on l'a dit tout à l'heure.
Comme je vous l'ai dit.
Voilà. Et un auditeur nous dit, ça fait du bien d'entendre un accent français bien de chez nous.
Ah oui, c'est un accent.
Ça nous change
accent
des banlieues.
Un accent gascon.
Voilà, gascon, c'est l'accent gascon. Jean Boutonnet, merci. Alors franchement,
c'est moi qui vous remercie.
Je ne peux qu'inviter nos auditeurs amoureux de l'histoire de France et aussi de l'histoire de la France américaine ou de l'Amérique française.
Canadienne.
Québécoise, dirais-je. Voilà, ouais. De découvrir ce personnage qui était jusqu'à ce soir, je pense, pour la pluralité ou la majorité de nos auditeurs absolument inconnus et qui, grâce à vous et grâce à Radio Courtoisie, sera un petit peu plus connu. Et puis, ça pourra peut-être donner des idées à des jeunes historiens ou à des chercheurs de se lancer dans toutes les pistes que vous avez tracées comme on appelait les Français des prairies, les traceurs, ceux qui traçaient la route, pour aller chercher et encore trouver des choses sur ce personnage extraordinaire, né Lomé, devenu la Motte Cadillac, seigneur de Détroit, fondateur de cette ville, et qui est enterré quelque part sous une salle des fêtes à Castelsarrasin.
Et qui a un gros besoin de notoriété.
Et qui a un gros besoin de notoriété.
Parce que dans cette affaire, moi, je ne suis rien qu'un porte-parole, mais j'aimerais bien que ça réussisse.
Vous avez beaucoup fait pour...
Parce qu'il a vraiment besoin qu'on le remette...
la Motte Cadillac. Et puis beaucoup fait pour... Une petite page intéressante de l'histoire de la France en Amérique, hein, parce que quand même, c'est toute une, c'est trois siècles d'histoire, il faut quand même pas l'oublier. La possession française, enfin la possession géographique française était considérable, de la région des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique, c'était vraiment considérable, et c'est très peu connu. On dit la Louisiane, mais c'était pas seulement l'État de Louisiane aujourd'hui, c'était tout à fait considérable.
Même Vaudreuil a revendiqué la Louisiane dans ses possessions, c'est-à-dire la Nouvelle France, là-bas, le Saint-Laurent jusqu'au fond.
Il suffit d'aller donc de voir prendre des annuaires, enfin de villes, de villages, de lieux dits américains, de tout ce qui est à l'est du Mississippi, pour voir la quantité invraisemblable de toponymes français, et également à l'ouest du Mississippi, à partir de Saint-Louis, qui est de l'autre côté, où là, effectivement, les Français ont ouvert la voie, c'est la voie de l'Oregon, enfin la grande voie qui va jusqu'aux Rocheuses, la grande prairie, etc., ce qu'on appelle le Midwest américain. C'est encore nous qu'on a fondé Saint-Louis, vous voyez, capitale du Missouri.
Après la mode Cadillac.
Voilà. Ça, c'est fait sous Louis XV. Ça commence sous XV.
Louis n'existait pas.
Voilà, ils sont passés de l'autre côté. Ils sont passés, il n'y avait rien, ils sont passés de l'autre côté. Voilà. Cher Jean Boutelet, merci beaucoup. La mode Cadillac, le Gascon qui fonde à Détroit, 1658-1730, un très très beau travail historique d'un autre Gascon, à la librairie Guénégo. Alors c'est un livre qui fait plus de 300 pages, 350 pages, et qui vaut 30, il faut dire maintenant les prix en...
En euros. On peut dire les deux.
En euros. Alors c'est 30,50 €. Et ça valait jusqu'au 31 décembre 200 francs. Voilà. Et par la magie du traité d'Amsterdam, ça vaut maintenant 30.
6 fois moins.
30, ça vaut 10 fois moins. 30,50 €. Voilà. Alors, moi, je vous invite à découvrir ça. C'est tout à fait épatant. Merci, cher Jean Boutonnet, et bravo pour votre travail. Merci. J'espère que d'autres auditeurs, après avoir découvert ce livre, ben, ça leur donnera des idées. Voilà, ma petite Jacqueline. À présent, vous allez peut-être nous faire quelques petits messages.
Si vous le voulez.
Hein. Alors, avant qu'on passe à notre camarade Loïc II et le camarade Guido. Oui.
Culturel de Paul Biller, le samedi 2 mars. Alors, Saint-Paul, Saint-Louis, où se trouve le Christ au Jardin des Oliviers. De la Croix, rendez-vous à 15h, 99 rue Saint-Antoine, métro Saint-Paul.
Voilà, on aura la semaine prochaine pour dire les autres.
Et puis, il y a la compagnie théâtrale de l'Eau Vive qui présente Le Malade Imaginaire de Molière. C'est une reprise. Je crois que c'est Catherine Antébliant qui est un petit
tout
peu
à fait.
Tout cela.
C'est pour ça qu'il faut, l'aider, la petite Catherine. Oui. Là, je la salue, c'est très celle bien qui nous écoute. Qu'elle fait.
Vendredi, donc, Le Malade Imaginaire de Molière, vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h30 et dimanche 10 mars à 15h30. C'est salle Sainte-Jeanne de Chantal, 96 boulevard Murat. C'est tout à côté d'ici.
Tout près.
Dans le 16e arrondissement et métro Porte Saint-Cloud. Voilà.
Encore.
Alors, dans le cadre des conférences du Roseau d'Or, Bernard Brun parlera de Marcel Proust et de la religion. Le jeudi 14 mars 2002 de 19h30 à 21h. Et c'est au salle Saint-Jean-Bosco. 29 bis rue de Danzig, dans le 15e arrondissement, métro Convention.
Je crois que c'est la congrégation de Saint-Vincent de Paul. C'est très très intéressant. Ces conférences sont toujours très intéressantes. Elles sont d'une haute tenue c'est littéraire et religieuse, parce que c'est toujours les rapports entre la littérature et la religion. Donc des très très beaux essais magnifiques.
Monsieur l'abbé Coex.
C'est ça.
Donne des cours d'initiation liturgique les lundi 11 mars 2002 et jeudi 14 mars 2002 à 20h45. Donc le 14 mars à 20h45 à la salle Saint-Joseph, 9 rue Émile Duclos, Paris 15e, métro Volontaire ou Pasteur.
C'est dans les locaux de Notre-Dame-du-Lys.
Exactement. Voilà, pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
à Una Voce.
À Una Voce, le numéro de téléphone, c'est le 01 42 93 40 18. Je répète, 01 42 93 40 18.
Je fais un petit mot de commentaire, parce que je connais personnellement l'abbé Coex, et je peux vous garantir qu'il connaît sa liturgie sur le bout des doigts. Enfin, je parle de la liturgie tridentine, celle du missel d'avant la réforme liturgique, et je crois qu'on n'en sait jamais assez sur la liturgie.
Et au mois de juin, il y aura une deuxième session de deux soirées.
Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que vous aviez à nous dire.
Voilà,
alors ça, on va le faire la semaine prochaine parce que c'est un peu plus tard. Oui, vous gardez ça de côté pour mercredi prochain, ma petite Jacqueline.
D'accord.
C'est une conférence de notre camarade Lugan, donc on va l'annoncer un petit peu plus tard.
C'est le 28 mars.
Alors, nous laissons maintenant la parole à notre bon camarade Guy Leudeux, monsieur BD de Radio Courtoisie. Bonsoir.
Bonsoir.
Il reçoit ce soir un autre bon camarade à nous, Laurent Bidot, dessinateur de bande dessinée, qui vient de nous proposer en bande dessinée l'histoire de la Grande Chartreuse aux éditions Glénat.
Eh oui. Ça peut paraître étrange. Alors, ça serait ma première question, non ? Laurent Bidot, l'éditeur Glénat, c'est pas un éditeur qui est réputé pour faire de la bande dessinée religieuse ?
Non, effectivement. L'idée est venue de la bouche, en fait, du père prieur de la Grande Chartreuse. Quand on lui a proposé de faire une bande dessinée sur l'histoire de la Grande Chartreuse, sur Saint-Bruno à l'origine, lui a tout de suite pensé à travailler avec les éditions Glénat. Pour moi, ça risquait pas de se faire, a priori. Et puis, finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait parce que Jacques Glénat est quelqu'un de très, très attaché à sa région et très attaché à la Grande Chartreuse. Et aussi, quelqu'un de très ouvert et de très, très désireux de faire progresser à la fois sa réflexion, la réflexion des lecteurs.
Oui, et puis Jacques Glénat, c'est un éditeur de bande dessinée. Voilà. D'abord, voilà. Mais c'est aussi un éditeur de beaux livres. C'est ce qu'on voilà. dit. C'est-à-dire des livres sur la montagne. En tout, en...
Voilà, beaucoup de livres sur la montagne, beaucoup de livres sur la mer. Oui. Et puis énormément de bandes dessinées, de tout registre. Des bonnes, des moins bonnes, oui. D'excellentes, de tout.
Alors, votre bande dessinée, et puis après on parlera véritablement de cet album, c'est-à-dire qu'on va le feuilleuter, dans le peu de temps qui nous reste.
Sur Radio Courtoisie quand même, enfin alors, on a quand même encore 10-12 minutes, fastoche.
Hein donc, question classique, comment êtes-vous entré en rapport avec Jacques Glénat? J'aimerais plus de détails.
Bah, d'abord, en fait, je suis rentré en rapport avec la Grande Chartreuse.
Oui.
Avant de rentrer
mais
en
comment,
rapport avec...
Comment
c'est venu de... C'est assez compliqué, mais on va essayer de faire simple. C'est une journaliste qui est une amie, une proche, qui avait donc lu Padre Pio. Il m'a dit, il faut absolument maintenant que tu fasses quelque chose sur Saint-Bruno. Alors, Saint-Bruno, a priori, je ne connaissais pas particulièrement. Elle m'a dit, si, il faut que tu fasses quelque chose sur Saint-Bruno. C'est le 900e anniversaire de sa mort, là, en 2001. Il faut qu'il fasse quelque chose. Elle est partie à la Grande Chartreuse. Elle a rencontré le père prieur de la Grande Chartreuse, hors des murs du monastère, puisque les femmes ne rentrent pas dans le monastère.
Il y a encore des endroits qui sont bien tenus.
Oui. Il l'a reçue avec beaucoup de courtoisie et a été très, très passionné par la bande dessinée sur le Padre Pio. Et lui a révélé que lui-même était, étant jeune, un grand lecteur de bande dessinée. C'est comme ça que finalement le projet a commencé à naître. Il m'a tout de suite demandé de venir le voir pour voir si j'étais quelqu'un de fréquentable finalement pour le monastère. Et je crois que ça s'est bien passé puisque la suite des opérations, ça a été de construire le projet avec lui-même et avec les éditions Glénat, par croquis, par proposition de scénario, etc.
Voilà, très bien.
Et de Saint-Bruno, en fait, on a glissé. À l'origine, c'était une vie de Saint-Bruno, mais pour Jacques Glénat, ça paraissait un peu restrictif finalement, et il a préféré qu'on élargisse un peu le sujet à la région, à la Grande Chartreuse, qui est plus connue, c'est vrai.
Oui, alors Saint-Bruno, je précise qu'il est décédé le 6 octobre 1101. Mm-hmm. Donc c'était l'année dernière, le 900e anniversaire.
Et la bande dessinée est sortie. Voilà,
exactement.
Vraiment pour l'anniversaire.
Alors donc, le rôle de Saint-Bruno. Pour la construction d'abord d'un ermitage,
oui.
Avec six compagnons. Alors, il peut-être nous en dire plus.
Bah oui, ça c'est une histoire intéressante. Il est arrivé en 1101, il était déjà assez âgé pour l'époque, il avait une cinquantaine d'années, il me semble.
Je vous remercie, c'était bien aimable.
Oui, mais pour l'époque, c'était le plan.
Je vous laisse, vous soufflerez la lumière.
Pour l'époque, c'était un vieillard croulant.
Oh, bah voilà.
En 1101, c'est donc quelqu'un qui avait énormément d'expérience, un sage. Il est arrivé avec six compagnons dans le massif de Chartreuse à la recherche d'un désert, à la recherche d'un ermitage à fonder, à la recherche du calme, du silence et d'un rapport avec Dieu basé sur le silence, sur la prière, sur tous ces éléments fondateurs finalement de la foi qui permettent de se recueillir et de s'élever. Et il est donc arrivé à Grenoble avec ses six compagnons et en fait il a été guidé par le très jeune évêque Hugues qui lui avait 25 ans pour un évêque, c'est quand même assez rare, mais un homme d'une grande sagesse et d'une grande maturité d'esprit malgré son jeune âge, qui les a conduits donc, dans ce lieu très reculé et totalement désert du massif de la Chartreuse. Et là, ils ont construit des cabanes de bûcherons, aidés des quelques paysans et quelques bûcherons et gens qui habitaient dans le coin, ils ont commencé à vivre là leur foi.
Mais il faut dire que ce Hugues avait une vision.
Il avait une vision, voilà.
Avant cette aventure.
Voilà, voilà. Mais il faut lire la bande dessinée.
Pour... Eh ben oui, attends, l'image, c'est super.
Non,
mais il faut aller chez, justement, les auditeurs avec toutes ces anecdotes, quand même.
Il y a une question qui nous est posée par un auditeur. Peut-être que notre camarade Bido va pouvoir y répondre.
Dans votre bande dessinée, montrez-vous l'expulsion des moines en 1905 par la canaille franc-maçonne et républicaine?
On va en parler.
C'est pléonasme, là. Franc-maçon et républicain.
On va y venir, on est au début là.
Monsieur la Bonté, c'est un pléonasme.
Alors on continue donc l'histoire de l'édification de ce monastère.
En 1101, dans la neige, dans la haute montagne, enfin dans la montagne sauvage où les loups et les ours vivaient.
Un ours des ours.
Oui, ça va déclencher une polémique, alors peut-être
mieux. Il n'y a pas de polémique. On dit un ours des ours.
Les ours. Où les ours vivaient.
Non, les ours.
Les ours.
Il faut faire la prononciation, mais on ne prononce pas le S final au pluriel du masculin d'ours.
Enfin, les loups vivaient bien dans la montagne.
Bon, alors les grosses bêtes.
Les grosses bêtes sauvages.
Allez, dites les ursidés, puis on parle.
Allez, Laurent Bidot. On continue.
Et puis donc, la vie était très rude là-haut. Voilà. Donc, et puis surtout, alors ce qui s'est passé, c'est que le pape Urbain II lui a passé un coup de téléphone. Et enfin, il lui a envoyé un messager cavalier. Oui. Pour l'appeler à Rome, pour que sa sagesse et sa maturité d'esprit, sa réflexion viennent éclairer un peu son pontificat. Ce que fait tout de suite Saint Bruno, qui à l'époque donc était Bruno. Bruno se rend à Rome, la mort dans l'âme, puisqu'il avait vraiment trouvé dans cet ermitage le sens de sa vie, le sens de sa relation avec Dieu.
Donc un autre prieur est nommé.
Voilà, un autre prieur est nommé. Le groupe naissant a failli se disloquer. Et donc Bruno quitte ce groupe pour Rome et pour fonder finalement un autre monastère un peu plus tard en Calabre, en Italie. Parce que vraiment la vie à Rome pour lui était quelque chose de totalement impossible. Trop bruyant, trop
compliqué. Déjà.
La règle de l'ordre, c'est pas Saint Bruno qui l'a.
Non. On peut pas vraiment parler de règles.
Les coutumes, disons. Voilà. Ça s'appelle comme ça. C'est voilà. Le terme technique.
Voilà. Ce sont des habitudes et des coutumes qui ont été écrites par Guigues, qui était un génie, finalement un génie de la littérature, à la fois sobre, juste et posé, puisque ces coutumes sont toujours, à l'heure actuelle, on parle de règles, effectivement, mais les grandes lignes et les grandes ficelles de l'ordre, les grandes tendances qui sont toujours en activité pour régner et régir l'ordre.
Alors, durant les siècles...
Ça fait donc combien de siècles que ces gens vivent sur les mêmes coutumes?
Eh bien, plus de 900 siècles. Ans.
Plus de 900 ans qu'ils vivent sur les mêmes coutumes. Vous imaginez combien de fois on va changer de loi, nous, en 10 ans?
Ah, ben oui. Hein, aucune réforme n'est venue changer quoi que ce soit. Il y a eu quelques essais, quelques tentatives, mais... Non. Alors, une solidité vraiment remarquable.
Cet ermitage va être éprouvé au cours des temps, au cours de ce presque millénaire, par la nature d'abord.
Alors c'est ce qui m'a intéressé, moi, d'écrire une bande dessinée, c'était de raconter tous ces événements qui sont vraiment une aventure humaine fantastique.
L'ermitage a été détruit plusieurs fois par des avalanches, les incendies.
Les incendies.
Et puis les guerres aussi.
Les guerres de religion. Tout.
Le monastère a été détruit par les Huguenots.
Envahi par les Huguenots.
Et puis il y a la Révolution.
La Révolution.
1792 et puis 1903, l'auditeur justement en parlait. Donc la loi de 1901 de...
C'est avant la séparation. 1905, c'est la séparation. 1903, c'est les congrégations.
C'est
l'expulsion des congrégations.
Les congrégations.
Ils sont pris en deux temps, les frères trois points.
C'est ça. Et d'ailleurs, vous relatez tout ça dans cet album. On voit les moines expulsés par l'armée qui est là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un militaire, je ne sais plus quel capitaine ou colonel qui brise son sabre.
Ah oui, après, tout à fait.
C'est intéressant.
Il y a eu de très nombreuses anecdotes comme ça, qui sont plus des anecdotes, ce sont des actes d'héroïsme. Militaires obéissants, leur métier c'est d'obéir, mais après, le lendemain, ils avaient démissionné de l'armée, les gens qui auraient dû faire de très très belles carrières. Voilà le gâchis que la secte franc-maçonne impose.
Jacques Léna m'a bien demandé d'insister sur cet aspect, parce que ses parents connaissent bien les descendants de cette famille, et ils en sont très fiers de cet acte de résistance.
Alors je lis justement le texte qui est sous l'image. De honte, son devoir achevé, l'officier chargé de l'expulsion a brisé son sabre et il a démissionné.
Voilà.
Alors les moines sont expulsés, puis ils vont revenir quand même.
Voilà,
plus tard,
l'occasion de...
En 1940
ils ont tout fait pour revenir. Ils étaient partis en Italie avec la distillerie.
On va en parler aussi.
Attendez, j'étais en train de formuler cette question. Mais enfin, parlons aussi de la distillerie.
Avant que les Allemands n'arrivent en Chartreuse, les Chartreux se sont dit qu'il fallait les devancer pour occuper le monastère et... finalement réintégrer les murs du monastère qui avait été transformé en colonie de vacances, en tout ce qu'on veut par l'État, mais sans succès. Ça n'a jamais marché, même en hôtellerie, ni rien du tout. C'était un peu loin de tout.
Puis donc ils sont venus en 1940 et depuis ils sont toujours là, heureusement.
Voilà, grâce aux gens du pays qui ont un attachement, encore aujourd'hui, vraiment, il y a une solidarité avec les Chartreux. une grande proximité.
Avant de parler de la fameuse liqueur, peut-être quelques mots sur la vie de ces moines, de ces ermites vivant en communauté. Ouais.
Qui sont toujours là.
Qui prient, bien sûr.
Près d'une trentaine, là-haut.
Qui pratiquent des travaux manuels.
Voilà. Alors, ils vivent en fait en ermite, derrière donc, les murs du monastère. Ils ont chacun un ensemble de cellules et un jardinet pour pratiquer quelques travaux manuels. Mais en fait, ce sont vraiment des hommes qui sont totalement des esprits tournés vers Dieu, vers la prière, vraiment vers le recueillement le plus total. Et il y a des femmes aussi, il y a des chartreuses, il y a des couvents de chartreuses, il ne faut pas les oublier, qui ont exactement le même mode de vie que les chartreux.
Alors donc ce sont eux qui ont inventé la fameuse liqueur.
Voilà. Alors ça, ils sont très, c'est très important. Les chartreux ont toujours été autonomes matériellement toute leur vie. Ils ont toujours travaillé. Il y avait les pères chartreux qui priaient et qui rédigeaient les manuscrits, qui copiaient les saintes écritures. Et à côté de ça, les frères chartreux qui, eux, étaient dont le rôle était la prière, et à côté de la prière, de travailler pour l'indépendance du monastère. Alors autrefois, c'était le bois, ensuite c'était les cultures, et puis la liqueur de Chartreuse.
Alors comment ils l'ont inventé, cette liqueur?
Oh, ça, c'est un secret.
Oh, c'est un secret. Ils ont cueilli des plantes.
Ça pourrait faire l'objet d'une bande dessinée.
C'est à base de plantes, et de plantes qui poussent justement.
Qui poussent dans la montagne.
Mais la recette est arrivée par un chevalier, un mystérieux chevalier, qui leur a remis un parchemin. Le parchemin a été ensuite très modifié par les moines, qui en ont établi une recette tout à fait excellente.
Ah oui, c'est bon, la chartreuse. Alors, la verte et puis la blanche, donc c'est tout.
La jaune, la verte, et puis il y en a plusieurs autres qui ont été créées.
Intéressant tout ça.
Délicieux. Alors, votre méthode de travail, parce que c'est
alors là, vous n'avez plus qu'une minute, hein,
oui.
La méthode de travail.
Un verre de chartreuse.
Donc, on a déjà...
Oui, d'accord.
Un verre de chartreuse.
D'accord. Et puis, de l'encre de chine, du papier, du crayon, une gomme.
Le plus dur, c'est qu'on arrive au bas de la page, parce que là, quelques verres d'eau.
Tiens, justement, en parlant de bas de page, là, l'album, vous l'avez réalisé en combien de temps?
Ben, on attend record, mais en 8 mois de travail, 7-8 mois de travail, c'était très court. Il fallait vraiment que ça sorte pour.
C'est rapide parce qu'il fallait écrire le scénario, soumettre peut-être au prieur ou.
Voilà, au fur et à mesure, il avait un fax et puis donc il recevait toutes les pages au fur et à mesure.
Vraiment, c'est d'une
et
grande
après, l'illustrer,
qualité.
Hein,
c'est grande là, qualité, et... c'est. C'est super, c'est vraiment super.
Les couleurs sont très belles.
C'est Laurent Bidot.
Ben oui, c'est Laurent Bidot. Voilà. Et on attend le prochain album.
Oh ben, attendez déjà que celui-là se vende.
Alors là.
Ah, celui-là se vend bien. Vous savez, la première édition, et ça vraiment, les éditions Iglena ont été, j'allais être vulgaire, mais sont restés un peu stupéfaits de découvrir qu'en un mois et demi, la première édition de 5000 exemplaires était totalement partie.
Puis ça va continuer.
Ça a donné j'ai l'impression quelques idées. Là, on va voir.
Vous viendrez en dédicacer à la fête de courtoisie, à la fête de langue française, comme vous faites d'habitude. Alors vous allez voir, là, on va en débiter aussi vite. Jacqueline, on a un dernier petit message.
Oui, on demande quel jour vous officiez à Notre-Dame le jour.
Je peux le dire sur cette antenne, oui. Je peux le dire. Eh bien, le mardi, la chronique BD à 9h moins le quart.
Très bien.
Bien.
Essayez, mon cher Guy, d'avoir la réciprocité. Hein.
Oui, j'y manquerai pas. Mais à Radio Notre-Dame, il n'y a aucun problème.
L'auditrice nous dit qu'on doit dire le bien. Bienheureux Guy Guess.
Oh, j'en sais rien. Bon. En tout cas, on dit des ours.
Voilà. Ça s'écrit de toute façon toujours pareil.
Voilà. Il y a un facétieux auditeur marseillais, peut-être que je sais qui c'est, je ne suis pas sûr, qui dit que la loi de 1905 a bien servi, si l'on y songe, à enlever à l'église la charge de rénovation de nombreux édifices. Il y avait encore une solution beaucoup plus radicale, c'était de tout écrabouiller, comme ça, il n'y avait plus d'entretien, y compris pour les communes.
C'est vrai qu'à la grande chartreuse...
Les éditions Glénat éditent-elles les BD Titeuf?
Titeuf.
Qu'est-ce que c'est chez Glénat?
Je pense que
c'est le petit personnage avec la houppette, là.
C'est chez Glénat, ça?
Oui, tout à fait, oui. Alors, justement, j'en parlais avec Jacques Glénat une fois, il m'a dit, ben oui, mais grâce à Titeuf, on peut faire aussi La Grande Chartreuse et d'autres livres.
Ben voilà.
C'est tout à fait juste.
Merci et bravo, cher Laurent Bidot, pour votre magnifique album et votre petit garçon qui est pas mal non plus, d'ailleurs, je vais dire, qui était très sage. Hein, on avait un autre dans le studio. Mais
et bon, il était en train de lire une bande dessinée, d'ailleurs.
Une bande dessinée, évidemment, grâce à Guy Levedeux. Merci, mon cher Guy. Donc, on se revoit la semaine prochaine.
Bientôt,
Je ne sais plus quand.
Et encore un mot sur Laurent Bidot. C'est lui qui illustre, il faut le dire, les ouvrages pour la jeunesse de Vladimir Volkov.
L'Angelot.
Magnifique. Du triomphe.
Ah, bah, on va vous réinviter, mon cher camarade. Merci à tous les auditeurs de leur amitié, de leur écoute fervente et à la semaine prochaine pour une grande émission de 3 heures.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre un libre journal de Serge de Beketch, dirigé en cette seconde partie par Daniel Amiche, assisté de Jacqueline Lovenbruck. Document d'archives du 27 février 2002. Rediffusé dimanche 27 février 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission a été réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 20 euros, ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole par avance merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.